Coucou les movers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers, le podcast dans lequel je vais vous présenter un nouveau mover pour une bien belle conversation cosmique dans laquelle on aborde un peu comme à chaque fois différents outils pour nous aider à exploiter notre potentiel physique, spirituel, émotionnel un peu plus. C'est vrai que là avec l'épisode d'aujourd'hui on part dans pas mal de directions, notamment certaines qui vont plaire aux amoureux de Wim Hof, de respiration, de techniques un peu alternatives, de médecines différentes. Donc aujourd'hui, podcast avec JB Bourgeois. La particularité de l'invité d'aujourd'hui, c'est que c'est un de mes élèves, donc un des élèves de mon académie de mouvement et un des élèves que j'ai en coaching individuel. Donc c'est un service que je propose aux personnes qui souhaitent justement aller un peu plus loin dans leur pratique physique et dans leur développement de leur physicalité, le développement de tous les aspects de la maîtrise du corps, donc avec la mobilité, la force, pas mal d'accès à différents domaines du mouvement et des compétences. Et donc on a eu l'occasion de se rencontrer à Lyon au cours d'un stage de mouvement que je donnais il y a quelques mois, au moment où en France on avait encore le droit d'aller dans les différentes salles et d'exercer. Et puis voilà, encore une belle découverte, et on a eu directement évidemment une belle conversation cosmique dans laquelle on a pu partager différentes choses. La particularité de JB, c'est que c'est un urgentiste, donc il travaille dans le milieu médical, et vous allez voir dans ce podcast il nous parle aussi des études. Ah d'ailleurs, pour la première fois j'ai un Bac+8, Bac+9. Voilà, donc on arrête avec les invités précédents parce qu'on m'a dit que ouais, j'apporte que des gens qui n'ont pas le bac et donc qui critiquent l'éducation scolaire. Pas du tout. Là aujourd'hui, vous allez avoir dans notre conversation, on va parler de justement comment être capable d'allier les études et les études à haut niveau avec un parcours athlétique et professionnel assez intense. Vous allez le découvrir. JB, il a fait du motocross, il a fait du trail, du crossfit, du MMA, et tout en ayant le temps pour les études. Donc on part là-dessus pour après dériver vers justement cette idée de dépassement de soi, d'essayer de découvrir ce qu'on est capable de faire, ce qui est capable de faire l'esprit par rapport au corps, par rapport à la matière. On discute aussi en détail de la notion de discipline, de force mentale et de motivation. Donc c'est un des sujets qui revient le plus souvent aussi dans les questions. Et après voilà comment on va dire se concentrer sur une chose à la fois, comment développer des compétences et développer un niveau suffisant pour justement passer à la prochaine étape de sa vie. Comment gérer sa vie, comment organiser sa vie. Donc il nous donne pas mal de conseils, il nous partage sa vision des choses, et après on parle également de justement Wim Hof, de l'exposition au froid, de la méditation, de l'idée de notre mortalité. Et donc voilà, à travers cet épisode, vous allez avoir un large panel d'informations, de connaissances, mais aussi vous allez découvrir une personne qui est comme les autres invités que j'essaye d'avoir sur le podcast, vraiment un movers cosmique qui comprend l'idée de la complétude entre le corps, le cœur et l'esprit, toujours avec humour, bienveillance, avec amour, pas du tout dans la moralisation, mais plutôt dans l'idée du partage et d'essayer d'aider la plupart des gens à accéder un peu à la prochaine étape de leur développement. Ce qui était intéressant pour moi dans cet épisode, c'est d'avoir le retour de quelqu'un qui est dans le milieu médical. Souvent quand on aborde des sujets de développement personnel, de spiritualité ou de mouvement, ces choses qui sont un peu intangibles, on peut être facilement associé à un gourou ou à des choses comme ça qui sont des hippies, les wouhou, etc. Donc là vous allez avoir l'aspect médical, et vous allez avoir un quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, qui côtoie la mort, qui côtoie le passage vers une autre dimension, et quelqu'un qui a aussi accès à tous les différents aspects en termes de soins, que ça soit la médecine occidentale traditionnelle, mais aussi les médecines alternatives. Donc je pense que vous allez avoir un point de vue qui est assez intéressant et qui m'a vraiment ravi de partager. Donc je vous laisse découvrir ce personnage haut en couleur qui souhaite vivre une vie pleine d'intensité au cours d'une belle conversation cosmique. C'est parti, Movers Podcast, épisode 9, Joyeux Noël à tous. Je pense que le son est bon. Et
voilà. Moi, je t'entends très bien. Il n'y a pas trop de bruit de parasites entre les oiseaux et la piscine et tout et tout.
Bah non, là j'ai tout fermé. Normalement, on devrait être bon. Et les oiseaux, là, c'est le matin qui nous régale de leur musique. L'après-midi, ils sont un peu plus calmes.
C'est ça.
Voilà. Bon bah c'est cool. On va essayer de s'attendre un peu, tu sais. Parce que je pense qu'il y a un léger décalage. Il est moins présent que la dernière fois. Mais tu vois, moi je vais parler. Je finis et après à ton tour. Et puis les gens, ils s'adapteront. Ils comprendront bien qu'on est à distance, tu vois. Ça marche?
Pas de souci pour marquer ce petit temps de pause qui fait à la fois tant de réflexion et de compréhension, on va dire.
Eh ben magnifique, mon JV. Eh ben écoute, je te propose de démarrer et ben, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Et je suis ravi que tu aies pu accepter cette belle invitation et je suis excité à l'idée d'avoir une belle conversation cosmique avec toi.
Bah écoute, merci Céline, c'est un plaisir d'être là avec toi, surtout en cette belle journée, on se le dise quand même, du 25 décembre, où avec nos vies respectives atypiques, on arrive à se retrouver sur un bon petit moment.
C'est vrai que c'est pas mal, t'as choisi une bonne date, et je pense que tu vas peut-être créer une nouvelle habitude, tu vois. Il y aura toujours un podcast le 25 décembre, ça pourrait être sympa de faire le point dès l'an prochain et voir la différence par rapport à cette année 2020. Et voir comment les choses ont évolué ou pas. Et en parlant de style de vie atypique, tu nous appelles d'où, mon JB, pour les gens qui ne savent pas?
Eh ben écoute, moi j'appelle du soleil, donc là je suis sur l'île de la Réunion pour 6 mois, parce que j'imagine que comme à chaque podcast ça sera présenté dans le début du podcast, yes. Mais du coup moi je suis médecin aux urgences et au SAMU, et là actuellement je fais 6 mois sur la belle île de la Réunion.
Magnifique.
Donc soleil, montagne.
Tu te régales.
Exactement. Et c'est vrai que de souvenir, tu es actuellement à Bali. Donc, tu vois, un sur l'île de la Réunion, un à Bali, le 25 décembre.
On est pas mal. On est pas mal. Je pense qu'on va, rien qu'avec ce début de présentation, on va pouvoir faire voyager un peu les gens. Et je pense que ça va leur faire du bien d'avoir un peu de soleil, même à travers nos voix. Je pense qu'ils vont pouvoir prendre du plaisir. En tout cas, moi, je suis super content de t'avoir. Déjà parce que notre rencontre elle est atypique. Là, la relation qu'on a aussi elle est assez spéciale. On en parlera peut-être par la suite.
Ouais.
Et aussi parce que tu es, on va dire, le premier invité qui a pas trop grand chose à voir avec les arts martiaux. Et donc ça fait du bien parce que je pense que les gens en auront un peu marre, tu vois, d'associer mouvement et arts martiaux. Donc même si de toute façon t'as pas ce background martial, t'as quand même un gros background de mouvement. Et j'aimerais qu'on démarre là-dessus. Et que tu nous en dises un peu plus, tu vois, quel est ton background à toi et comment t'en es arrivé à repenser ta pratique physique. Je sais que c'est un sujet qui est dense et que maintenant t'es en pleine phase même de réflexion sur d'autres aspects comme la nutrition, etc. Mais déjà sur l'aspect physique, en fait, comment t'en es arrivé là?
Alors, c'est très intéressant. Donc déjà, pour le petit aparté, pour reprendre un petit peu tes autres podcasts, je suis pas au final à être bac plus. Tu disais souvent la vanne que t'en avais, qu'elle va arrêter l'école.
Ah, enfin!
Là, du coup, je peux pas être le premier.
J'ai un bac plus 8, enfin.
Donc moi, en fait, c'est facile, hein. Débat?
Non, je disais, j'en ai enfin un. Et c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais tout le monde m'en a parlé. On m'a dit, pourquoi tu ramènes que des cancres? Et je dis, non, mais il y en aura un jour. Et JB, c'est le premier. Magnifique.
Donc, pour revenir, en gros, moi, sur mon background, quand même, j'ai un mini background martiaux dans le sens où j'ai fait, plus jeune, 4 ans de boxe en française, donc de savates, 3 ans de judo, et entre mes 18 et 21 ans, j'ai quand même fait 3 ans de MMA.
C'est vrai.
Mais globalement, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et les majeurs sports, on va dire, dans ma jeunesse, ça a été notamment le motocross.
Ouais.
Où j'ai fait plus de 10 ans de motocross, avec, à la fin, le choix à faire de est-ce que je voulais pousser plus loin sur une carrière pro ou est-ce que je me penchais sur les études. Donc, la raison a fait que je me suis tourné vers les études.
Ouais.
Et par la suite, moi, je suis tombé dans les courses avec obstacles. Donc, ce type Spartan Race, Mud Bay, pour ceux qui connaissent un petit peu des grandes franchises. où là directement accroché à l'aspect course à pied et à l'aspect aussi physique qu'elle avait.
Ouais.
Donc ça a été gros entraînement sur du trail, du crossfit. Et vu que c'était un peu un sport nouveau à l'époque, bah rapidement à se retrouver à pouvoir aller faire les championnats d'Europe et faire quelques perfs, donc être à bon niveau, j'ai envie de dire, tout en continuant à côté les études de médecine studieuses et plus classiques, quoi.
Mortel, mortel. Et justement, comment t'as réussi à faire cette alliance entre les deux? Parce que c'est vrai que bah, avec les précédents invités, la question elle se posait pas. Même si ma sœur aussi, tu vois, c'est une bac plus 5. Et elle a pu faire la jonction entre avoir un peu le développement physique, suivre un peu sa passion à travers quelque chose qui fait bouger le corps, et aussi de la notion de performance, de compétition, tout en maintenant la rigueur, la régularité des études. Toi, dans ton cas, c'est assez particulier parce que médecine, c'est réputé pour être très très dur et très chronophage. Donc toi, de ton côté, comment t'as réussi à avoir les deux en même temps?
Ben, j'aurais plusieurs réponses à te faire là-dessus. La première, déjà, parce que moi, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai un père qui est médecin, mais qui était aussi ancien sportif. Donc, j'ai toujours fait du sport et c'était vraiment une nécessité à la fois physique et surtout aussi pour décompresser en fait de tes journées. C'était vraiment un essai toujours. Hein. C'est un échappatoire. Le sport, c'est mieux que la méditation à mes yeux, même si je pratique beaucoup de méditation aussi. Mais c'était aussi le côté de vouloir, je pense, indirectement prouver qu'on peut faire les deux.
Ouais.
Que tu peux faire des études tout en continuant à vivre pour toi et en ayant des activités à côté, et que c'est juste une question d'organisation et j'ai presque envie de dire volonté,
ouais,
de réussir à allier les deux.
Et ça, justement, c'était quelque chose qui était en toi dès le début. Est-ce que tu penses qu'il y a une notion un peu d'ego ou de vouloir prouver aux autres que t'es capable de faire les deux? Est-ce que t'avais aussi cette notion de tu te sens un peu plus spécial quand t'es capable de faire les deux? Comment t'as abordé cette chose-là et pourquoi tu t'es pas justement ce que la plupart des gens font, surtout quand tu commences à être bon et que tu fais de la compète, c'est bah de lâcher les études et de te dire autant y aller pleine balle dans le sport.
Et bah pour reprendre surtout le sport, on va dire le bon niveau dernièrement sur la course à obstacles, en fait c'était assez marrant parce que bah, comme beaucoup, tu finis les études à 17-18 ans, tu passes ton bac, t'es en fin d'adolescence, tu commences à grandir, t'as les nanas, t'as les soirées entre potes, donc tu mets un peu tout ça de côté. Mais je gardais un petit footing de temps en temps parce que bah, ça faisait partie un peu de mon hygiène de vie.
Ouais.
Donc, mais on va dire quand même, mes deux premières années de médecine, c'était quand même assez, une fois que j'avais réussi la première année, assez festif, comme tout bon étudiant.
Ouais.
Jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, là, quand tu vas courir, tu commences à galérer, t'avances plus. Enfin, t'as la gueule de bois au moins deux fois par semaine. C'est des années que je regrette pas du tout. Tu vois, c'était génial, mais je faisais vraiment plus du sport pour s'entretenir et un peu de renfort au poids du corps et c'est tout quoi. Et un jour, je tombe sur les courses avec obstacle et je me suis dit ouais, je suis chaud d'aller avec un pote. Et tu sais, tu cherches dans ton entourage des gens qui sont assez de tête brûlée pour faire ça avec toi. Et tu te rends compte que les gens, ils ont pas forcément la motivation, l'envie, ou ils le prennent pas forcément au sérieux. Donc un matin, je me suis entraîné un matin, je me suis dit, écoute, en fait, t'as besoin de personne pour faire ça, et en fait, il suffit que tu te lèves une heure plus tôt le matin, et tu vas t'entraîner, et tu t'inscris. Et du coup, là-dessus, je me suis inscrit à ma première Spartan Race, où j'y suis allé en mode ancien compétiteur, qui va pour se prouver quelque chose à la fois à lui-même, et à la fois aux autres, entre guillemets, comme quoi on peut faire les deux.
Ouais.
Et du coup, je me suis lancé dans cette première course, et pour ceux qui ne connaissent pas trop, globalement, en fait, c'est comme une course à pied type trail, plutôt dans la terre, dans les cailloux, dans la boue, avec des obstacles type obstacles de parcours militaire. Donc, t'as du montée de corde, t'as du monkey bar, t'as des portées, tu passes par-dessus des murets, tu passes dans des étangs. C'est très, très polyvalent. Donc, vraiment, avec ce côté un peu de dépassement de soi. Et en fait, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, je me sens tellement vivant, tellement bien, que je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est là que je me sens bien, parce que ça allie de la souplesse, de la force, de la course à pied, du cardio. Enfin, il y avait vraiment tout.
Ouais.
Et à partir de là, je me suis lancé tête baissée là-dedans et j'ai repris mon planning et je me suis dit, ok, c'est facile. Le matin, tu commences à 8h30 l'hôpital, tu finis à 13h quand t'es étudiant et l'après-midi, tu bosses tes cours. De toute façon, généralement jusqu'à 18h30, 19h. Et bah, c'est facile. T'as une heure le matin, une heure le soir et bah, il va falloir s'organiser pour réussir à caler au moins 3-4 entraînements là-dedans, quoi.
Mortel, mortel. Donc comme quoi en vrai quand tu mets les choses sur papier, c'est largement faisable et largement accessible. Et ouais, moi je te suis absolument là-dedans dans cette idée que tout est une histoire d'organisation. Moi je me rappelle, je bossais en entreprise, tu vois, il y a genre 7-8 ans, un truc comme ça, et j'étais en même temps boxeur professionnel. Et de la même manière que toi, tu te cales 1 heure le matin, et bon, moi c'était 2h30 le soir. Et après t'as ta journée de 8 heures comme tout le monde, et t'as le temps, tu vois, de manger, de tu vois, d'avoir une certaine vie sociale, tu vois, t'es pas complètement on va dire en ermite, mais c'est vrai que ça demande cette rigueur de dire bah voilà, il y a 1 heure avant, il faut que je la prenne pour faire du sport, et donc il faut que je dorme nécessairement un peu plus tôt, tu vois, ou si je dors pas très très tôt, il faut que je m'adapte, tu vois, il faut que je dorme un peu comme dit Schwarzenegger, faut dormir plus vite, tu vois, il faut arriver, si en 6 heures tu peux te récupérer, récupère-toi en 6 heures et passe à la chose suivante, tu vois. Mais c'est super intéressant que t'aies pu allier la partie médecine, le travail à l'hôpital et ce côté Spartan Race. Moi là, de ce que tu me dis, tu vois, j'ai pas eu l'occasion de faire ces sports-là, mais il y a pas mal de choses qui sont un peu reliées dans les deux univers. Tu vois, il y a cet environnement très très un peu stressant dans lequel tu dois te dépasser. Donc il y a un peu ces notions où tu dois garder ton calme, tu dois aussi gérer tes efforts, tu vois, que ça soit dans un hôpital toute une journée ou bien dans la course. Il y a ce côté, tu peux pas tout donner à n'importe quel moment, tu vois, sinon tu vas te sacrifier pour le reste de ta journée et tu vas pas pouvoir être performant. Donc toi, est-ce que t'as ressenti des choses comme ça, des parallèles? Est-ce qu'il y a des parallèles que tu peux faire entre les deux aspects de ta vie? Et est-ce que tu penses justement qu'avoir cette pratique physique-là particulière, c'est un super complément à ta pratique professionnelle?
Ben écoute, tu mets le doigt sur plusieurs sujets très intéressants. Déjà, tu as parlé du fait de pas vivre en ermite, et ça, je pense que c'est très important à souligner, parce que les gens imaginent rapidement et facilement que quand tu bosses et que tu fais du sport, ça veut dire que tu peux voir personne, que tu peux plus sortir, que tu peux plus rien faire.
Ouais.
Et alors que pas du tout. C'est une question d'organisation, comme tu dis, c'est fais ton sport le matin, l'après-midi, t'es libre pour voir tes potes. Et c'est sûr que au lieu de zoner 4 fois dans la semaine, en fait, où tu te rends compte que tu fais pas grand-chose, tu vas peut-être voir moins, mais de façon beaucoup qualitative, et tu prends en fait beaucoup plus de plaisir à faire des soirées et à voir tes amis.
Amen.
Et pour ce qui est entre les deux aspects, les reliés, moi, je sais que la sieste, hein, pour reprendre un peu ta citation sur Schwarzenegger, la sieste, moi, je trouve que c'est quelque chose de magique. Donc la sieste, c'est vraiment... c'est pas dormir 1 heure, c'est dormir entre 10 et 20 minutes, quoi. Une vraie sieste, c'est ça. Où t'as pas du tout le temps de tomber dans un sommeil profond. Ou même ce qu'on conseille, nous, aux gens, des fois, de faire, c'est typiquement, c'est tenir un stylo dans la main ou une cuillère. Et en fait, au moment où ils s'endorment, le stylo ou la cuillère va tomber, ça va les réveiller. Donc, ça les empêche de passer dans un sommeil profond. Et moi, je sais que les siestes, c'est des choses que j'ai toujours fait. Et d'un point de vue sportif, quand tu allies, comme sportif et professionnel, hein, quand tu allies différentes disciplines, ça permet de tout faire et en fait de faire une espèce de reset, et ça c'est très important.
Ouais. C'est vrai que c'est un super outil que moi j'utilisais, même si j'avais pas toutes les connaissances à l'époque, j'avais entendu parler du concept là, tu sais, de power nap, et donc je faisais des siestes de 12 minutes pile poil, tu vois. Et donc c'est vrai que après le premier entraînement, généralement tu as quand même ce regain d'énergie, tu vois. Si tu t'es entraîné correctement et que t'es pas allé à la fatigue complète de ton corps, tu vois, t'es pas allé en zone rouge, normalement tu sors d'un entraînement, t'es plein d'énergie. Ça aussi, c'est un peu le truc que beaucoup de gens comprennent pas, ou on n'entend pas ou peu parler, c'est cette idée que l'entraînement, c'est censé te donner de l'énergie. T'es pas censé sortir d'un entraînement être rincé. Et donc s'entraîner le matin, le bienfait de s'entraîner le matin, c'est qu'avant de travailler et avant de donner ton attention au monde et faire des tâches avec le groupe, et ben en fait tu t'es reboosté, tu t'es donné tellement d'énergie que tu vas être beaucoup plus performant, beaucoup plus attentif, beaucoup plus, t'auras plus d'acuité, plus de concentration, etc. Parce que le sport, la pratique physique te donne cette énergie. Donc généralement, moi dans mon cas, c'était le matin, je faisais tout ce qui était cardio, roadwork, un peu de shadow boxing, etc. Et ça mettait en fait, ça faisait pompe. Je pompais le sang en fait partout, tu vois, et donc ça me réveillait. Et après, j'abordais le travail, et c'était généralement le matin où j'étais le plus efficace. Et après l'après-midi, tu vois, t'as un peu ce pic où tu te détends un peu, tu peux te régénérer par une petite sieste. Et après, t'entames la soirée où là, t'as encore un second entraînement où t'as quand même de l'énergie grâce à cette petite sieste, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un super outil, la sieste. Et mais voilà, il y a peu de gens qui savent comment l'utiliser. Je pense que l'astuce que tu viens de nous donner, elle est mortelle. Je la mettrai en note pour ceux qui veulent. Et en parlant justement d'outils, toi, est-ce que t'as d'autres petits outils là qui te permettent d'allier, on va dire, deux modes de vie qui sont pas si éloignés au final, tu vois, mais qui demandent certains sacrifices en temps ou bien certains ajustements? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais? Par exemple, tu mentionnais la méditation. quand est-ce que tu l'emploies? Est-ce que c'est quelque chose de quotidien? Et est-ce que ça t'aide un peu à allier ces différents domaines de ta vie?
Alors, c'est une très bonne question. Pour clore déjà le sujet de la sieste, c'est vrai qu'il faut que les gens y gardent en tête que le but, c'est pas forcément de dormir, c'est vraiment de se reposer. Ouais. Comme tu dis, pour avoir ce regain d'énergie. Par la suite, oui, par rapport aux deux disciplines, au final, qui demandent à la fois de la concentration et qui sont chronophages et qui bouffent aussi beaucoup d'énergie. Moi, j'ai connu la méditation. J'ai beaucoup médité le matin. Je dois reconnaître que je médite surtout par cycle. J'ai des périodes où pendant 3 heures absolument tous les matins, puis après je ressens moins le besoin, je vais lever un petit peu le pied et en faire plus que de temps en temps, et au final j'y reviens toujours au bout de quelques mois. Actuellement je suis en train de me former sur de l'hypnose, donc pareil, les principes un peu d'auto-hypnose, d'ancrage pour retrouver un peu de l'énergie pour se recentrer, se refocaliser. C'est aussi d'autres aspects assez intéressants. Et une fois de plus, un peu comme on disait déjà sur l'introduction, ça serait l'organisation et la volonté. La volonté de se dire, en fait, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ces deux choses parce que ça m'apporte du plaisir, ça m'apporte du bien-être, je me sens mieux après. Se souvenir dans quel état t'es après ton entraînement, comme tu dis très justement que t'es plus efficace limite quand tu vas bosser après ton entraînement parce que tu te sens trop bien. Ah bah c'est clair que le footing du matin quand tu te lèves... Surtout, j'ai envie de dire en métropole, quand tu te lèves, qu'il est 7 heures du mat, qu'il fait nuit, qu'il fait froid, que tu mets tes habits là l'hiver pour aller courir 1 heure, où t'es tout seul et tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là pendant les 10 minutes. Bon, on se souvient tous que quand t'arrives après chez toi, que tu bois ton café ou ton petit thé, que tu te sens extrêmement bien, que tu te sens vivant. Et ça, c'est sans prix. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le fait que, comme au début, ça fait un petit peu mal, mais qu'après, ça fait beaucoup, beaucoup de bien et que tu te sens bien, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis moi, j'ai rajouté que t'as aussi cette sensation de t'es fier de toi, tu vois. Et quelque chose qui te motive, c'est aussi cette estime de toi qui grandit, tu vois. C'est beaucoup plus facile après par la suite quand t'as des conversations avec les gens ou que ça soit dans ta famille, que tu veux transmettre certaines valeurs. C'est beaucoup plus facile de les transmettre quand tu les vis et quand tu les quand tu es réellement ce que tu dis que tu es, tu vois. Si tu donnes des conseils à ton garçon ou à ta fille et tu lui dis, bah, ce serait bien que si tu faisais un peu de sport, tu prennes soin de toi, mais que toi, t'es pas capable de te lever le matin et de faire 10 pompes, 10 tractions. Tu vois, cette incohérence, on la vit tous et c'est le sentiment le plus désagréable. Donc, ça vaut la peine de passer ces petites 10 minutes, comme tu dis, à souffrir un peu, pour avoir cette récompense au bout d'une heure ou au bout de moins de temps. Tu vois, tu peux faire des choses qui sont très rapides, très peu consommatrice en temps et avoir ces mêmes sensations.
Complètement.
Et je pense que ça, comme tu dis, un, ça n'a pas de prix et deux, il n'y a pas d'autre meilleur moyen de commencer une journée. C'est-à-dire que c'est aussi une sorte de barrière supplémentaire à la négativité, à des choses qui, au final, sont pas si importantes, qui, sans avoir eu cette dose de, on va dire, de bien-être, de bien se sentir le matin, peut-être t'aurais passé du temps à obséder ou à être énervé sur des choses qui sont au final dérisoires dans ta journée et au regard de ton expérience de vie. Et au final, voilà, ça te demande juste un peu de sport ou un peu d'entraînement physique le matin et ça paye. Vas-y.
Et une petite astuce, je suis désolé, je te coupe, vu qu'on est un peu décalé. C'est de se rendre compte, comme tu dis, si t'as pas besoin de faire 1 heure, tu fais 20 minutes le matin, des fois ça suffit. Et c'est de se rendre compte le temps que tu perds en fait sur des choses qui sont complètement futiles dans ta journée. Et l'avantage maintenant, sans faire de forcément pour Apple, mais je pense que les autres marques le font, on peut voir combien de temps, le temps écran comme ils appellent ça, combien de temps tu passes par jour sur tes écrans.
Ouais.
Et ça c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire, tu te rends compte, en fait, tu passes rapidement 2 heures sur tes écrans. Et moi je sais que depuis maintenant... Bah, Instagram, c'est bloqué à 10 minutes, Facebook, 10 minutes. Et une fois que j'ai dépassé le quota, ça me dit que j'ai dépassé mon quota. Et voilà. Et en fait, tu te rends compte comme ça que tu récupères un temps dans ta journée qui est conséquent, qui te repose au final parce que ces choses-là, ça te draine une énergie pas possible, tant physique que émotionnelle. Et c'est des petites choses, là, d'organisation où en fait, tu dis, bah ouais, le matin, au lieu de passer 20 minutes dans mon lit à regarder, qu'est-ce que font les autres, et à pas vivre ma vie, en fait, plutôt me lever plutôt que de regarder mon portable et aller faire des choses moi, quoi, pour moi-même.
C'est clair. Et ça veut pas dire, encore une fois, de passer du tout au tout, de tout arrêter, de se déconnecter d'absolument tout. C'est juste réduire, notre consommation, sur ces écrans-là ou sur ces outils-là pour la réinjecter ailleurs et notamment en nous, tu vois. Mais par exemple, pour les gens qui ont utilisé les réseaux sociaux pour le travail, etc., ça veut pas dire d'arrêter complètement, tu vois, même si moi, je suis passé par cette phase-là récemment. Mais ça peut être de faire des transitions, tu vois, comme des vases communicants. Tu prends un peu de cette énergie-là que tu dépensais, qui parfois, comme tu dis, elle est complètement inutile parce qu'au final, tu fais que consommer du contenu et il n'y a pas une action qui est derrière, il n'y a pas de prise d'action, prise de décision, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, c'est juste de la consommation, c'est du junk food. Et remplacer une partie de ce temps-là vers quelque chose d'un peu plus productif, tu vois. Et c'est vrai que moi, là, j'en ai fait la merveilleuse découverte en arrêtant Instagram définitivement, là, il y a 2 semaines à peu près. Et comme tu dis, en fait, tu regagnes du temps de vie. C'est-à-dire que même si tu l'utilises pas 10 heures, moi, la chose qui m'avait... Enfin, que j'ai remarqué, c'était que même sans utiliser l'application, en fait, j'y pensais souvent, tu vois, comme je devais faire des stories, poster, raconter des choses. En fait, c'est ce temps-là, en fait, c'est du temps de processeur, en fait, tu vois, c'est ton ordinateur dans ta tête, il continue quand même à essayer de capter des informations, il va quand même te donner des petits indices quand tu te balades dans la rue, il va dire, ah, regarde, il y a un endroit qui pourrait être Instagrammable, etc. Et en fait, c'est toutes ces petites actions-là qui, une fois qu'il n'y a plus cet outil-là, ou comme tu dis, tu te mets des restrictions en termes de temps, et ben cette attention, tu vas l'avoir ailleurs. Là où, par exemple, pour un créatif, ça peut être, tu peux trouver de l'inspiration ailleurs, tu peux avoir une conversation dans laquelle tu es plus présent, et donc tu vas faire attention à des détails auxquels tu faisais pas attention auparavant, etc., etc. Et donc, tu as tous ces petits boosts dans le reste de ta journée et dans ton appréciation, on va dire, de ta journée, tu vois. Donc ouais, amène sur l'idée de, on va dire, remanager, regérer comment on attribue notre énergie dans les différentes choses qu'on fait dans la journée, tu vois. Là, c'est clairement quelque chose que je vis en ce moment.
Tout à fait là-dessus. Ouais. Complètement d'accord. Parce que ouais, les réseaux sociaux, ça a du bon, hein, comme tu dis, c'est des vrais métiers, ça a été connecté avec les gens, et je suis le premier à avoir un petit Instagram de Beach Boy.
C'est tellement ça. Ton Instagram, c'est vraiment Instagram de NSYNC, tu vois, ou de Justin Timberlake quand il commençait. C'est clairement ça.
Mais tu vois, pour autant, ça me prend 5 minutes par-ci par-là, et ouais, c'est pas tombé dans l'excès de vivre pour ça et au travers de ça, parce que t'as l'impression que si t'as pas la dernière photo où t'es en vacances à droite à gauche, etc.,
ouais.
Et qu'en fait, moi j'ai la chance en plus actuellement de voir de près comment on manage tout ça, et en fait, tu te rends compte, voilà, de tout l'aspect fake que tu peux y mettre et comment et pourquoi. Et c'est vrai que maintenant, c'est le fléau un peu des nouvelles générations, c'est qu'en fait, tu regardes ce que tu as sous les yeux et tu regardes la photo, tu as l'impression qu'il y a un monde entre les deux, alors que c'est exactement le même endroit, au même moment.
Ouais.
Mais il y en a un l'air complètement magique où tu n'as plus de nuages gris, où il fait super beau, où les couleurs sont incroyables. Et le problème, c'est que les gens commencent à vivre à travers le téléphone au lieu de vivre avec ce qu'ils ont sous les yeux.
Ouais.
Et ça, c'est en train de devenir un fléau, et d'ici quelques années, ça va être compliqué.
Ouais, c'est sûr. Moi, tu vois, pour là, je suis à Bali et c'est un peu l'endroit où il y a tous les Instagrammeurs et tous les gens qui sont un peu dans cette mouvance, tu sais, health and fitness, santé, bien-être, ouais. Méditation, respiration, yoga, etc. Tu vois. Et c'est vrai que tu vas à la salle de sport. En fait, tous les mecs qui sont à côté de toi, c'est tous des mecs qui ont 200 000 followers, 700 000 followers, etc. T'as des YouTubers, etc. Et en fait, parmi cette masse de gens là, t'as un nombre très très restreint d'entrepreneurs sérieux qui font quelque chose, on va dire, de plutôt sérieux, plutôt concret. Là où la plupart, c'est simplement des, sans porter de jugement, c'est, ils produisent pas vraiment du contenu éducatif ou quelque chose qui va pouvoir apporter des outils aux gens. C'est simplement, ils jouissent de, comme tu disais, de prendre des belles photos d'environnement, de se mettre, tu vois, t'es une petite, tu fais un petit entraînement fitness et tu montes tes fesses. Et en fait, ça fait qu'il y a des gens qui consomment ce type de contenu. Donc derrière, tu peux leur vendre, je sais pas moi, des protéines ou je sais pas quoi, ou leur donner un coupon, ou les marques te sponsorisent pour mettre leurs leggings et faire une photo. Mais au final, tu vois, il y a pas de transformation de vie, tu vois. C'est juste, tu continues à, enfin, tu sais, c'est du divertissement, très bien, mais je veux dire, il apporte rien, quoi. Moi, il y a d'autres divertissements que qui pourrait me faire plus plaisir, c'est un film de 3 heures avec une vraie enquête ou un truc comme ça, ou sur lequel t'apprends des choses, ou bien même sur le côté artistique, tu vois, t'as des belles images et tout. Mais là, consommer une photo de quelqu'un qui te parle d'un leggings, Tu vois, genre ça n'a, enfin pour moi ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et comme tu dis, c'est vers ça qu'on va malheureusement. Là où tu vois là sur l'île dans laquelle je suis, il y a un vrai tout petit nombre d'entrepreneurs qui ont, voilà, soit des vrais services en ligne, des vrais logiciels ou qui font des vrais trucs, on va dire un peu plus pertinents et qui aident le collectif à s'élever. Mais par contre, il y a une masse, comme tu dis, de gens qui, voilà, simplement utilisent l'outil. C'est pas comme des parasites, tu vois, mais sans rien apporter, tu vois. Il y a pas de notion d'élévation du collectif. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Instagram. Voilà, après 2 ans et demi, c'est que je me retrouvais plus en fait dans ces petits posts et ces petites choses et cette petite consommation rapide. Là où moi, ce que j'ai envie de partager, c'est du long contenu, c'est quelque chose de dense, un peu comme cette conversation-là, dans lesquelles les gens peuvent se plonger, peuvent se perdre dedans et peuvent choper plein d'outils qu'ils peuvent implémenter par la suite, tu vois. Après, voilà, moi, je dis ça, c'est en toute humilité, c'est pas par arrogance, il n'y a pas de mieux ou moins bien, il n'y a pas de supérieur ou inférieur, c'est simplement on fait des choses différentes. Et c'est vrai que, voilà, il y a des outils qui vont te permettre d'être un peu plus en accord avec ce que toi, t'aimerais véhiculer. Et c'est vrai qu'Instagram, il y a peu de gens sérieux qui l'utilisent, on va dire.
Non, il y a Amel à ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça, c'est deux mondes différents, et toi comme moi, là tu t'expliques très bien la phase par laquelle t'es passé. Moi j'ai connu ça à minima, parce que moi ça me faisait plus pour le plaisir, voire même presque le plaisir de l'ego, que d'un point de vue développer un business comme t'as pu le faire. Mais c'est vrai que tu te rends compte qu'en fait, voilà, tu deviens, commences à vivre et à réfléchir pour ça, comme tu dis, ces gens avec des posts pour des leggings, des choses comme ça, en fait, qui te mangent de la place dans ton cerveau, hein, parce qu'il faut pas oublier que le cerveau, c'est un disque dur, et t'as tant de RAM par jour, et au bout d'un moment, en fait, quand tu dépasses ça, en fait, t'en peux plus, quoi.
Exactement.
T'en peux plus, ça te remet aussi en cause toi, parce que tu dis, bah, attends, moi, c'était, quand j'étais en médecine, tu vois, je voyais tous mes potes de fac, ou surtout mes potes de lycée, ou les gens que tu rencontres en vacances, qui sont à droite, à gauche, qui te montrent des super belles voitures, des super belles, qui sont au sport, qui sont en train de faire les choses que t'as envie de faire. Et toi, tu te dis, putain, je suis comme un con à bosser 12 heures par jour dans une bibliothèque, pour faire médecine. Qu'est-ce que je fous là? J'ai envie de me barrer. Et en fait, non. Déjà, chaque chose en son temps. Tu vois, moi, au final, voilà, 5 à 8 ans après, bah, je suis là où j'ai envie d'être et je vais clairement dans la direction de ce que j'ai toujours voulu faire. Et pour autant, en fait, ces gens-là, bah maintenant, ils sont toujours à la même place, ils n'ont pas avancé. Donc, j'aurais presque envie de dire qu'il faut pas oublier que dans la vie, il y a des étapes. Que soit tu grilles les étapes et tu te retrouves à vendre des leggings en faisant des demi-squats et des restes qui sont pas propres. Soit, à l'inverse, comme en plus, je sais que là-dessus, t'es très pointilleux, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand on bosse ensemble, c'est l'aspect du faire des vrais mouvements correctement. Et il vaut mieux en faire 2 que 20, mais faire des beaux mouvements, quoi.
Amen, amen. Tu lis dans mes pensées et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est que avec le format vient aussi la diminution de la qualité. Comme tu dis, montrer à quelqu'un, hein, par exemple dans l'aspect sportif, un vrai mouvement, quelque chose de long. Moi, je pourrais te parler de faire une pompe, je pourrais t'en parler pendant 7 heures. Je pourrais te parler 7 heures sur tout ce qu'il faut bien faire et tout ce qu'il faut pas faire. Je veux dire, c'est suffisamment. Dans ces complexes.
J'ai le droit pendant moins de 30 minutes de 40 minutes, quoi.
Bah, c'est vrai, tu vois. Et au final, ces outils-là, une fois que tu les connais, ou une fois que t'as cette manière de voir les choses, voir ton corps, voir les mouvements, c'est vrai que t'as déjà un ressenti qui est différent, t'as des résultats évidemment qui sont différents, et puis t'as un plaisir de bouger ton corps qui est totalement différent. Là où, ce qu'on voit la plupart du temps, comme c'est pas du tout dense, c'est de la consommation rapide, et ben au final les gens ils ont aussi cette idée, j'ai juste à faire ça, on va dire à la va-vite, et j'aurai des résultats, mais qui viendront aussi à la va-vite et qui vont partir à la même vitesse à laquelle ils sont venus, tu vois. Et c'est ça aussi le problème là de tous ces outils là qui prônent un peu ces micro contenus, c'est que ça infantilise les gens, tu vois. Ça les rend vraiment complètement détaché de, pour comprendre quelque chose, il faut que je passe du temps, tu vois. Là où un artisan, il va dire, bah non, pour être menuisier, il faut passer des années, tu vois. Et même après 2 décennies, j'aurai encore des choses à apprendre. Là où les gens, ils font plus ce même parallèle avec apprendre à bouger mon corps, tu vois. Et, ou apprendre à gérer ma santé, tu vois. Et ça aussi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, tu vois, avec mes élèves et tout. Et hier, tu vois, j'avais un live en parlant de ça, ça fait la transition parfaite, parce que t'as mentionné beaucoup cette idée de force mentale, tu vois. Et Moi, j'aimerais que tu me dises ce que toi t'entends par force mentale et est-ce que tu fais la différence entre la force mentale et la discipline, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus?
C'est très intéressant, c'est une très belle transition d'ailleurs. Alors entre force mentale et discipline, il y a tellement de choses à dire. Déjà, et en plus, je rajouterais même encore plus à la force mentale et la discipline, je rajouterais aussi la notion de motivation. Parce
Voilà.
que je trouve que,
Abordons les
pareil,
trois.
ça fait un pas en arrière pour en refaire deux en avant. Mais en fait, la motivation des gens, les trois quarts du temps, pour avoir aussi un petit peu coaché et entraîné des gens, ils disent, limite, ils viennent, ils disent, je veux ressembler à ça, quoi, ou je veux faire ça. Ils arrivent, ils sont motivés par quelque chose, ils sont motivés par une idée. Mais j'ai envie de dire un peu, fuck la motivation, quoi. En fait, la
Exact.
motivation, ça t'emmènera nulle part. Parce que la motivation, aujourd'hui, t'es motivé pour faire des pompes, mais dans 3 semaines, t'en auras marre parce que, t'auras changé d'avis sur certaines choses. J'ai plus envie de dire, justement, ce qui est important et que tu as souligné et qui est très intéressant, c'est la discipline. C'est la discipline et la rigueur de se dire, OK, là, je veux aller là. Mais il va falloir que je sois rigoureux, il va falloir que j'arrête de bouffer du sucre transformé parce qu'en fait j'ai envie de maigrir et je sais pourquoi je veux le faire. Et du coup c'est cette discipline, je pense, tous les jours va pouvoir t'emmener du point A au point B sans te perdre dans différents chemins. Et c'est à mon avis la force mentale qui va justement te permettre d'accepter cette discipline de vie. C'est voilà, quand je vais sortir avec mes potes, ben en fait, j'ai décidé de perdre du poids. On sait que l'alcool, c'est quelque chose qui fait énormément grossir. Mais pour autant, maintenant, d'un point de vue sociétal, si tu sors avec tes potes que tu bois rien, ben, t'as l'air un peu d'un couillon. Et ben c'est réapprendre à boire des trucs plus intelligents.
Ouais.
Tu vois, au lieu de te prendre un cocktail avec des jus de fruits concentrés, du rhum qui est hyper calorique, etc., ben, tu te dis, attends, quel alcool est moins calorique? Qu'est-ce que je peux prendre en fait comme soft, intelligent? Où au final, je me fais du bien, je me fais plaisir, et je prends autant de plaisir qu'avec un verre standard, quoi.
Ouais.
Donc, je pense que ouais, la force mentale, c'est ce qui va te garder dans le droit chemin, et la discipline, c'est ce qui va t'emmener un petit peu dans l'endroit.
Ok, c'est j'aime bien la manière dont tu le dis, parce qu'hier justement avec cet élève-là, tu vois, il me parlait de ce souci-là entre, par exemple lui, c'était parfaitement le sujet du sucre en fait. C'était j'ai une addiction au sucre et j'ai envie d'arrêter, tu vois. Et moi je lui disais un peu la même chose que ce que tu dis, c'est que le seul outil sur lequel il faut vraiment compter, il faut mettre, on va dire, tous ces œufs, c'est dans ce panier-là qu'il faut les mettre, c'est le panier de la discipline. Moi, ce que je rajouterais un peu à ce que tu viens de dire, c'est que la discipline, y a pas à la juger. Il n'y a pas à l'aimer ou à pas l'aimer. C'est quelque chose pour moi qui est neutre, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas comme la
Exactement.
motivation. La motivation, c'est toujours lié, on va dire, à une émotion. Tu vois, il y a une musique qui peut te motiver, il y a un pote à côté de toi qui peut te motiver. Tu vois, c'est une sorte d'énergie transitoire, la motivation, tu vois. Et c'est pour ça que je dirais la même chose que toi, fuck la motivation, ça sert à rien en fait. Parce que sur le long terme, ça disparaît, ça va et ça vient. Là où la discipline, ça disparaît jamais, tu vois. C'est quelque chose qui est neutre, qui est toujours présent. Tu peux toujours y accéder. Et tu peux toujours l'améliorer, tu vois. Mais c'est pas, il y a rien de, on va dire, c'est pas bien ou pas bien d'être la discipline, tu vois. C'est vraiment, c'est un état de fait, tu vois. Et justement, si tu vois, tu jettes la motivation parce que tu comprends que c'est transitoire et que c'est lié à des émotions et que c'est que des énergies qui passent, reste le sujet de la force mentale, tu vois. Moi, ce que je dirais sur la force mentale, je reprendrai un peu ce que tu disais tout à l'heure avec l'espace disponible dans notre cerveau. Tu vois, si tu prends le cerveau et que tu dis que c'est un disque dur, moi je dirais que la force mentale, par rapport à la discipline qui s'inscrit sur le long terme, moi la force mentale, je la vois sur quelque chose de quotidien. C'est en fait au réveil, tu as une batterie qui s'appelle la force mentale. Cette force mentale, elle diminue, tu vois, tout au long de la journée, et à la fin de la journée, tu dors, tu es rincé, il n'y a plus de force mentale, tu vois, tu as juste envie de dormir. Et mais elle se régénère chaque jour. Tu vois, chaque matin, tu te lèves et tu as un bon niveau de force mentale. Et cette force mentale-là, évidemment, si la veille t'as bien dormi, tu manges bien, tu te hydrates bien, etc., évidemment, t'en auras peut-être un peu plus que les jours où tu te réveilles pas bien ou tu dors pas bien, etc. Mais c'est quand même quelque chose pour moi qui disparaît à mesure que la journée passe. Dans le sens où, si t'as plein de choses que tu fais dans la journée que tu n'aimes pas, ça va te consommer de la force mentale, tu vois. Parce que il y a une forme de résistance. Tu rejettes la chose que tu vas faire et donc pour quand même la faire, ça te demande de la force mentale. Tu dis putain, il faut que je me force à faire quelque chose. Tu vois, là où moi, la discipline, je la sépare de la force mentale parce que je me dis, j'ai pas à me forcer, j'ai pas à le faire, on va dire, dans la dureté. J'ai juste à le faire comme un zombie, tu vois. J'ai juste à éteindre mon cerveau et à le faire parce que j'ai décidé que j'allais le faire, tu vois. J'ai pas à juger cette chose-là. Tu vois ce que je veux dire? Même si, évidemment, que techniquement, ça prend de la force mentale. Mais, tu vois, si tu prends ton planning, tes dimanches soirs, tu dis, vas-y, j'écris ma semaine de lundi à dimanche, tu vois, ma semaine d'entraînement. Et tu dis, je vais faire ça, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Ben, au final, le matin, dans la journée, quand arrive le moment de l'entraînement, eh ben, t'as rien à faire, en fait. C'est déjà écrit, t'as juste à le faire, tu vois. Alors, évidemment que ça prend un peu de force mentale dans le sens, ah putain, il y a toujours une petite résistance. Mais si tu t'es dit que t'allais le faire et que tu veux respecter ta parole, bah voilà, t'as juste à le faire. C'est bête et méchant, tu vois. Et la discipline, elle intervient où? Elle intervient dans le fait de, bah je le fais quand même si, tu vois, aujourd'hui il pleut, même si j'ai vraiment pas envie. En fait, je le fais peu importe ce qui se passe dans ma vie, tu vois. Et c'est ça, moi, l'aspect que l'aspect neutre, en fait, de la discipline, il vient de là pour moi. La discipline, tu l'as fait, enfin, tu fais l'action, peu importe ce qui arrive, en fait, peu importe les événements extérieurs, tu vois. Là où la force mentale, moi, je sais que j'en utilise, mais j'essaye de pas compter là-dessus pour tout ce qui est entraînement, gestion, etc., parce que je sais que il suffit que tu dormes un peu trop tard la veille, ou il suffit que tu sortes, ou il suffit que, tu sais, tu voyages, donc ton cycle de sommeil est décalé, donc tes hormones, elles sont un peu déséquilibrées, et qu'en fait, déjà, ça te consomme pas mal de force mentale, tu vois, de résister à la faim, de résister à d'autres choses. Et au final, je me dis, si je dois m'entraîner avec une bonne force mentale, eh ben, il y aura un moment où je vais craquer, tu vois. Là où, tu vois, si je me dis que j'ai pas besoin de force mentale pour m'entraîner, eh ben, si je me lève un matin et que je suis éclaté, eh ben, je sais que j'ai juste à adapter mon entraînement, tu vois. À pas faire aussi intense que j'avais prévu de faire, mais à quand même, tu sais, bouger, quoi. Faire les mouvements que j'avais dit que j'allais faire, quitte à faire, comme on disait, une série au lieu de quatre séries, et c'est pas grave, tu vois. Mais c'est vrai que c'est distinguer les trois, tu vois, entre force mentale, discipline et motivation. Je pense que c'est la première chose à vraiment bien mettre au clair dans son esprit et comprendre quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser au quotidien, quels sont les outils dont tu as besoin sur le moment et quels sont les outils que tu as besoin pour le reste de ta vie, tu vois. Et moi, en fait, c'est ça la grosse différence entre ces trois-là, c'est la temporalité. Il y en a un que tu vas utiliser sur le moment, il y en a un qui est dépendant simplement d'une énergie méga transitoire, tu vois, donc c'est l'histoire de 5 minutes, tu vois, d'être motivé, et la discipline, c'est le long terme, tu vois. Donc voilà un peu pour mon point de vue là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses ou si t'es d'accord ou en désaccord.
Alors, ce que j'en pense, c'est que je vais me lancer, je pense, dans une tirade de 5 minutes, là, vu comme c'est parti. Je résonne, mais à 300% avec ce que tu dis et les mots que t'emploies et la façon dont tu l'as imagé, je pense que tu pouvais pas faire plus juste, et parce que c'est quelque chose par lequel je suis passé et que j'emploie encore quotidiennement. Et complètement, je suis à 200% d'accord avec toi, et je pense que c'est important qu'on insiste, parce que je pense que c'est vraiment l'élément clé là de ces trois distinctions. La motivation, voilà, c'est ça vient, ça part. Puis comme tu dis, la discipline, elle est là. Tu l'as décidé avant, ta discipline, tu l'as posée, il n'y a plus rien à faire. Et cet aspect force mentale que tu mets plutôt en parallèle avec une batterie, je pense que c'est une image que j'adore et que j'utilisais beaucoup. Je vais reprendre un petit peu l'exemple de la première année de médecine où tu faisais appel à ça. Donc, tu es connu pour être difficile, etc. Moi, où j'étais, c'est facile, on était 1700, ils en prenaient 170. Et moi, je sais que je faisais pas forcément partie des plus intelligents, on va dire. C'est sûr que tu fais partie des gens, t'arrives là, déjà, t'as quand même des facilités, on va dire. Mais j'étais pas une bête intellectuelle comme certains, mais j'ai eu cette discipline et cette force mentale qui ont fait que j'ai pu réussir. Et moi, beaucoup de gens, beaucoup de mes amis de médecine me taquinaient toujours, du souvenir d'une copine surtout, là, qui me disait, mais en fait, toi, tu marches à la motivation, à la force mentale, et en fait, tu te poses pas de questions, t'es d'une discipline. Je fais, mais en fait, c'est simplement ça. Tu te décharges, comme tu dis, t'as ta batterie à 100%, tu te décharges de toutes les choses qui servent pas. Ouais. Moi, j'étais au stade, voilà. Mes repas, en fait, je savais que j'allais manger ça toute la semaine. Ok, bah ça, j'avais plus à y penser pour la semaine.
Amen.
Je savais qu'en fait, le mardi, le jeudi, j'allais m'entraîner, et bah, je me posais pas de questions. Et en fait, quoi, et même sans faire sur du long terme, tu fais sur ta journée. Le matin, tu te poses 5 minutes avec ton café, au lieu d'être sur ton portable, tu te dis ok, aujourd'hui je veux faire quoi, comment, pourquoi, dans quel ordre. Ben une fois que t'as organisé ta journée, et ben l'organisation en fait permet que sur ta force mentale, sur ta batterie, t'as déjà beaucoup moins de choses à réfléchir, beaucoup moins de choses à apprendre. Et comme tu l'as justement souligné, cette batterie, il suffit de la gérer par la suite. Et c'est ça qui est très très intéressant. Et par la suite, c'est comme ça que tu réussis. Et c'est aussi, à mon avis, comme ça que t'échoues. Parce que moi, j'ai connu l'effet inverse après 6 ans après sur le concours d'internat, qui est en gros, tu prends les 10 000 en France qui ont réussi médecine et tu refais un nouveau concours avec bête de concours. Et moi, je sais que je me suis complètement cramé parce que justement, voilà, j'avais ma discipline, mais j'ai pas eu la force mentale ni l'intelligence de gérer ça correctement. Et je me suis retrouvé à faire, d'un point de vue professionnel, comme je m'étais retrouvé à faire en sport, un an avant, et j'ai refait la même erreur un an après. Donc, on peut dire que j'ai eu 3 ans où justement, j'étais tombé dans un excès inverse où faut pas confondre, je pense, et c'est pour ça que je vais le souligner, l'aspect force mentale et l'aspect intelligence avec la discipline. C'est que, il y a cette discipline où moi, j'étais vraiment très discipliné en mode, je marchais à un stade où je me disais, en fait, si tu le fais pas, t'es une merde. Ouais. Et ça, c'est, quand tu te parles comme ça, c'est, je pense, un des plus gros pouvoirs de l'être humain quand t'as de la discipline que tes compétiteurs, où tu te dis, en fait, si t'y arrives pas, t'es une merde. Et ça marche dans le sport, ça marche dans la vie, et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir des performances qui sont incroyables à des vitesses très élevé, j'ai envie de dire. Moi, je vois la course à obstacles en l'espace de 1 an, je me suis retrouvé à avoir un super niveau. J'avais une très bonne tolérance au lactate, donc c'est sûr que ça facilitait. Mais pareil, au crossfit, j'ai vite levé des barres, ou en tout cas fait des mouvements de gym que je maîtrisais pas forcément tout de suite, mais en tout cas, je les passais parce que voilà, à la motivation, bah, en fait, voilà, t'as ton, je sais pas, ton muscle-up, en gros, si tu le montes pas, bah, t'es une merde. Mais en fait, en l'espace de 2 fois, t'arrives à monter.
C'est
bah, la course, j'ai jamais abandonné une course, mais j'ai fini des courses avec des crampes. Où j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre parce qu'en fait c'était juste pas une option d'abandonner, et c'était d'aller jusqu'au bout parce que bah t'es top 10, tu vas arriver au bout. Donc en fait c'était à se mettre presque en danger, et ce qui s'est passé, bah en fait après t'enchaînes les blessures.
Ouais.
Je me suis fait une périostite, je me suis fait une hernie discale à 27 ans, tu passes 2 semaines alité dans un lit, j'ai foiré mon internat de médecine où au final j'ai failli pas pouvoir faire ce que je voulais comme je voulais. Parce qu'en fait, ça peut devenir aussi autodestructeur, cette façon de penser, cette façon de fonctionner. Et donc, c'est pour ça que c'est important de garder en tête que la discipline, il faut l'avoir, comme tu dis. Mais comme tu disais, le jour où tu te sens un peu plus fatigué, de se dire, OK, bah là, peut-être aujourd'hui, je vais adapter mon entraînement. Et je trouve que la vraie difficulté chez les gens, c'est à ceux qui passent trop de temps à s'écouter, qui se disent, oh non, je suis fatigué, je vais pas m'entraîner, ça sert à rien, je m'entraînerai demain. Ou là, je pense que c'est de la connerie. Et t'as ceux qui sont pas capables, comme j'ai pu être, de s'écouter, de se dire, bah, je suis fatigué, c'est pas grave. J'avais prévu de faire un WOD de 30 minutes, mais en fait, je vais quand même faire un WOD de 30 minutes et je vais me mettre cartouche parce que c'est ce qui était prévu. C'est de réussir à trouver cette balance, cet entre-deux où, en fait, t'apprends à t'écouter, tu réapprends, entre guillemets, à t'aimer et à vraiment écouter son corps, en fait. Et je pense que c'est l'essence même du mouvement et de ce que tu peux enseigner. C'est écouter son corps et se dire, OK, mon corps, il me dit ça. Ma discipline et mon esprit me disent ça. Comment j'arrive à allier les deux pour justement, je sais que tu parles souvent un peu des yin et yang, et j'ai presque envie de dire, voilà, que les deux se rejoignent là-dessus, quoi.
Eh ben, écoute, c'est exactement ça. Là, tu mentionnes plein de points super intéressants. Et déjà, pour faire le reflet de ce que tu viens de dire, moi aussi, je suis passé exactement par les mêmes phases, en fait, tu vois, d'avoir cette discipline et cette intransigeance ou ce refus de l'échec ou de la faiblesse, etc., au point de me blesser. Et moi, j'en suis, tu sais, pour ça que maintenant j'enseigne ce que j'enseigne et que je promeus ce que je promeus, parce que voilà, j'ai eu toutes mes blessures, j'ai eu toutes ces carrières que j'ai dû abandonner. Et en même temps, voilà, l'effet dont tu parles, qui est aussi extraordinaire, c'est que avec cette discipline-là, avec cette rigueur, avec cette intransigeance et ce refus de ne pas aller loin, eh ben, c'est vrai que déjà, t'apprends plus rapidement, t'atteins des objectifs, beaucoup plus rapidement que les autres, t'atteins des perfs, comme tu disais, beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, etc. Et ce qui fait que t'as une expérience de vie qui est aussi plus intense. Et donc après, il y a aussi ce choix-là. Tu le mentionnes par la suite en disant, tu vois, les gens, bah, soit ils en font, en gros, soit ils en font trop, ou soit ils en font pas assez, tu vois. Et ça, c'est vraiment le vrai démon. Et je pense que, avant même d'aborder le métier qu'on veut faire, les études qu'on veut faire, le sport qu'on veut faire, etc., il faut aussi se poser cette question, tu vois, à quel point tu veux vivre une vie intense, tu vois. Comment tu veux vivre ta vie, tu vois. Est-ce que tu la veux pleine de rebondissements, pleine d'expériences, ou tu la veux plutôt tranquille, plutôt chill, à pas faire grand-chose, mais à être, on va dire, à toujours trouver le contentement et la paix là où tu veux être. Et tu vois, ça, c'est des choix purement personnels, mais c'est vrai que je pense que c'est quand même la couche qui est sous-jacente à la manière dont on va traiter notre corps et dont on va faire les choix de vie qu'on va faire. Comme là, tu le disais, par rapport à médecine ou par rapport aux courses, au crossfit, etc. Et ben, en fait, c'est ça. Et il y a des gens qui vont toujours préférer, je pense qu'on est un peu tous les deux dans ce cas-là, vivre une vie pleine d'intensité, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas vraiment de commencer un sport ou commencer une activité sans vouloir voir où est-ce que j'ai envie d'aller, tu vois. Là où, pour beaucoup de personnes, ils le font pour le faire comme ça, sans trop se poser de questions, tu vois. Mais ouais, pour moi, c'est une impossibilité, en fait, de ne pas me poser de questions et de pas justement remettre en cause cet aspect-là, tu vois. Est-ce que je donne vraiment le max? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que je peux apprendre plus vite? Est-ce que je peux optimiser mon apprentissage et mon développement? Et c'est vrai que c'est pour ça que nous aussi, on s'est mis à bosser ensemble, etc. Mais c'est vrai que voilà, ces outils-là, ils sont à double tranchant. Il faut savoir quand les manipuler, comment et surtout le pourquoi. C'est-à-dire que si tu sais pas pour quelle raison tu as envie d'avoir ou tu as envie d'être cette personne-là, c'est sûr que tu vas pas aller loin, tu vois. C'est sûr que tu vas toujours abandonner, tu vas toujours faire des hauts et des bas, tu vas toujours essayer de trouver la solution de facilité, tu vas toujours être dépendant de plein d'outils externes. Là où en fait vraiment réfléchir sur pourquoi on veut être cette personne-là, pourquoi on veut faire ce métier, pourquoi on veut devenir comme ça ou comme ça, bah en fait c'est là où il y a la sagesse, tu vois. Comme disait, je crois que c'était Simon Sinek qui disait, il faut trouver ton pourquoi en fait. Il faut trouver la raison pour laquelle tu fais les choses et tu es cette chose-là, tu vois. Et je pense qu'après, une fois que ça c'est fait, après voilà, en naviguant, en essayant différents outils, en s'autorisant le fait de les utiliser incorrectement, tu vois. C'est-à-dire que oui, c'est bien d'essayer d'être discipliné, et c'est pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est bien ou pas bien, ou c'est peu importe d'y aller trop loin, tu vois. Moi, je suis toujours à encourager cette idée de tester et d'être un explorateur, d'être un expérimenteur, d'être un chaman, tu vois, peu importe, tu vois, d'être vraiment quelqu'un qui est dans son laboratoire, qui teste toutes les combinaisons, qui teste toutes les formules pour trouver ce qui va bien. Et comme tu disais, au risque d'aller trop loin, de se blesser, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a rien d'autre à faire et que c'est un peu l'être qu'on est censé être. Il faut s'autoriser ces choses-là, tu vois. Autoriser le fait d'être jugé comme étant quelqu'un qui est trop rigide, trop raide, trop discipliné, et aussi l'effet inverse, d'être jugé comme étant t'es trop laxiste, t'es trop détendu, etc. Tu vois. Et après, essayer de trouver, comme tu disais, son petit équilibre et voilà quoi, pour avancer tout simplement. Et là, ce que j'aime bien dans ce que t'as dit, il y a un point en particulier qui m'a vraiment marqué, parce que c'est quelque chose que j'essaye de transmettre et j'ai peut-être pas le vocabulaire, donc tu vas peut-être m'aider. C'est cette idée de, tu vois, quand t'as ton objectif et t'organises ta semaine, moi j'appelle ça être intransigeant, mais il y en a d'autres qui peuvent trouver un autre mot, mais c'est aussi d'essayer de trouver, tu sais, le minimum en fait qui va être utile pour cet objectif. Par exemple, les repas. Si tu dis je mange tous les jours la même chose, eh ben c'est bon, c'est réglé, tu vois. Il y a plus à y réfléchir, tu vois. Et je trouve que l'obstacle pour beaucoup, c'est cette idée, je veux que ma journée soit pleine de diversité, pleine de couleurs, etc. Et pour moi, jusqu'à présent, je pense que cette notion-là, c'est incompatible avec l'idée de la performance, l'idée d'atteindre des choses supplémentaires, parce que c'est pas comme ça que, enfin en tout cas moi j'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui a réussi à me faire changer d'avis. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Pour moi, on est vraiment des créatures de routine. Et plus vite tu mets des routines, plus vite tu maîtrises, on va dire, les conséquences de tes actes ou de la plupart de tes actes. C'est-à-dire, si tu sais que tu manges tous les jours la même chose, ce repas-là, etc., que tu as certaines perfs, il suffit de changer un élément dans ce repas et tu vas pouvoir mesurer, tu vas pouvoir voir s'il y a un réel impact qui est amélioratif ou destructeur, tu vois. Là où il y a, pour beaucoup de gens, ils se disent, non, j'ai quand même envie d'avoir le luxe d'avoir des repas qui sont totalement différents, de manger plein d'aliments différents. Et pour moi, j'ai toujours dit que c'était de la perte de temps, en fait. C'est quelque chose qui va être, ça va être contre-productif, tu vois. Et je sais que tu l'as mentionné là pour les repas, mais est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est aussi important, tu vois, d'avoir cette notion de, en fait, faut être des créatures de routine. Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, en fait, comment tu t'implémentes ces petites actions journalières, cette routine?
Eh ben écoute, ça va être marrant, je vais te faire un peu une réponse à double tranchant, parce que moi typiquement, comme tu vois, tu parlais de l'aspect hyperactif une vie trépidante où tu as envie de faire plein de choses, et je sais qu'on se rejoint là-dessus. Et moi, je suis un petit peu le genre de personne, en fait, qui dans ma vie tous les jours déteste la routine. Quand j'ai une routine, j'ai envie de la détruire, tu vois.
Ouais.
C'est quand je me rends compte qu'en fait tous les matins je fais la même chose, etc., je me dis attends, là tu déconnes, va falloir changer ça, etc. Donc ça, je trouve que c'est possible sur des petites choses, mais par contre, quand tu veux atteindre un but et certaines choses, une fois de plus, on revient sur cette notion de force mentale et de batterie, et où je suis complètement d'accord avec toi, qu'en fait, il faut hiérarchiser les choses dans ta vie. Moi, c'est un truc que j'ai eu la chance, que mon papa m'a beaucoup appris là-dessus et m'a beaucoup aidé. C'est, voilà, te dire, ok, l'objectif en ce moment, c'est quoi? Est-ce que c'est de m'entraîner physiquement? Est-ce que c'est de développer mon business? Est-ce que c'est de prendre du bon temps, simplement, parce que ça peut être un objectif comme un autre, et c'est important de se l'accorder. Et la vie, moi, je la vois vraiment comme quelque chose de cyclique. Il y a un temps pour tout, et moi, je dirais que c'est un truc sur lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal, c'est que je veux tout faire en même temps, tu vois. Je veux faire un back flip, mais en même temps, je veux réussir à faire des belles muscle-up et pouvoir en faire 15 à la suite, mais en même temps, je veux prendre du temps avec mes potes, mais en même temps, je veux voyager. Tu peux pas tout faire. Donc, je pense que, pour vraiment, c'est comme ton idée de la boucle, c'est en fait... diminuer au maximum les charges qui ne servent à rien ou qui servent peu, ou accepter de les mettre de côté pour une autre fois. Comme tu dis, c'est que ça te permet de mesurer. Bah là, en ce moment, t'es en train de, je dirais presque, si t'as déjà deux choses dans ta vie que tu gères, que tu manages, il faut savoir hiérarchiser les choses et accepter d'en mettre de côté. De se dire, bah écoute, là, ouais, peut-être que sur le plan alimentaire, là, pendant quelques temps, ça va être moins fun parce que j'ai envie de faire attention à ce que je mange et j'ai envie de me développer physiquement, j'ai envie d'être plus efficace sur le plan sportif. Et bah, c'est un peu comme les sportifs, tu vois, les sportifs de haut niveau, ils sont quand même beaucoup à faire ça, à faire des pseudo-régimes sans être aussi excessifs que ce qu'ils font.
Ouais.
Parce que le problème, c'est que une fois que la compète est passée, ils s'envoient tout et n'importe quoi pour compenser. Là, une fois de plus, j'ai envie de dire, être plus modéré, de se dire, bah, ok, la semaine, tu vois, moi, j'étais très adepte de ça quand je discutais avec les gens sur le plan nutritionnel. Bah, la semaine, t'es strict. Le week-end, t'as le droit de te faire un peu plus plaisir parce que sinon, l'être humain ne tient pas.
Ouais.
Quand t'as pas la discipline qu'on peut avoir, parce que des fois, pour nous, c'est difficile à comprendre, quoi. Parce qu'on a un peu le même profil, un petit peu extrême, en mode, j'accepte les conséquences de si je vais trop loin et voilà. Et les gens, bah, en fait, quand tu leur imposes ça, ils disent, t'es grand malade. Alors qu'en fait, nous, on s'en rend plus compte.
C'est vrai, c'est vrai.
On aime ce mode de vie, on aime ça. Comme tu dis, nous, on aime vivre dans l'aspect extrême, de se dire, voilà. Mais, en contrepartie, quand tu te blesses et que tu es sur ton lit en train de pisser dans une bouteille, tu peux plus marcher, tu te dis, voilà, j'ai peut-être un petit peu déconné, il va peut-être falloir rectifier certaines
choses. C'est ça.
Ouais. C'est pareil. C'est réussir à trouver, voilà, ces deux phases et c'est là-dessus vraiment que je te rejoins sur l'aspect de réussir à s'enlever certaines choses. Et d'ailleurs, tu regardes tous les grands noms, les Steve Jobs, les gens comme ça, etc. Pourquoi ça, les Zuckerberg et les compagnies, c'est que les deux-là, par exemple, sont connus pour s'habiller toujours pareil.
Ouais, bah ouais.
Parce qu'en fait, le matin, ils n'ont pas envie d'utiliser les 2% de leur batterie qui va se dire, est-ce que je mets du bleu avec du noir ou plutôt du blanc avec du gris? En fait, ils n'ont pas envie de se poser la question. Ils ont trouvé 15 t-shirts, 15 jeans et puis voilà, ça roule. Et ces 2%, c'est les 2% qui, des fois, vont faire la différence parce qu'ils vont, au final, prendre ces 2% pour aller faire de la méditation, pour se recentrer, prendre ces 2%, en fait, pour simplement... se détendre pour eux et ou être plus productif dans leur travail. Donc j'aurais envie de dire, c'est vraiment, voilà, trouver quel type de profil, ça rejoint un petit peu sur ce que tu disais avant, mais quel type de profil les gens sont, est-ce qu'ils sont plus sur un versant extrême ou plus sur un versant lazy, j'aurais envie de dire, un peu plus réservé.
Ouais.
Et j'ai envie de dire, bah, essayez l'autre versant pour une fois, expérimentez comme le petit Slim dans son labo, expérimentez quelque chose qui vous ressemble moins et regardez les conséquences. Le mec qui a la flemme, bah, essaye d'être intransigeant pendant 3 mois et regarde les résultats et regarde comment tu te sens. Le mec qui est trop extrême, qui fait que de se blesser, qui n'arrive pas à aller au bout des choses, bah, essaye de prendre un peu plus de temps et regarde qu'au final, en fait, tu auras peut-être mis un mois de plus pour arriver à la finalité, mais tu seras arrivé sans te blesser et en meilleure forme.
Exactement. Et moi, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et c'est vrai que, voilà, moi, à titre personnel, c'est vrai que je suis plus dans le versant extrême, tu vois, un peu comme toi. Et là, l'exemple que tu mentionnes sur Steve Jobs, bah moi, comme tu le sais, c'est exactement ce que j'ai fait, on va dire, pour tous les aspects logistiques de ma vie. C'est que j'ai clairement une ou deux tenues et puis c'est tout, tu vois. C'est-à-dire que tu vas toujours me voir avec la même tenue, quoi. Je vais pas changer et puis je m'en fous, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai un sac à dos et que je vis un peu ce style de vie minimaliste. C'est parce que ouais, moi j'ai plus envie, tu vois, c'était il y a 5 ans que j'ai fait un peu tous ces changements. J'ai plus eu envie de me poser la question de à quoi je vais ressembler quand je sors, tu vois. C'est bon, j'ai trouvé une tenue qui marche. Si cette tenue, regarde, pour te dire à quel point je suis extrême là-dessus, c'est quand cette tenue se déchire, je prends la même tenue. C'est-à-dire que je me pose même pas la question de bah, tiens, c'est l'occasion de changer de couleur. Non. C'est-à-dire que tu vois, genre j'ai une tenue, par exemple pour sortir, tu vois, genre j'ai un jean Levi's, mais quand je te dis, je prends à chaque fois le même. Je connais le modèle, j'ai juste à le commander, c'est le même, tu vois. C'est pile ma taille, c'est parfait, tu vois. Et donc voilà, bon, ça veut pas dire qu'il faut, ça veut pas dire qu'il faut toujours aller dans cette direction. Mais c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que derrière, tu mentionnes deux choses qui sont méga méga importantes. C'est cette idée de, la première, c'est cette idée de temporalité. Si on comprend que la vie, elle est cyclique, comme tous les éléments de la nature, que ce soit les plantes, les animaux, eh ben on peut comprendre ou on peut s'imaginer aussi organiser notre vie de manière cyclique. C'est-à-dire, comme tu disais, on peut pas tout faire dans la vie, mais c'est sous-entendu, on peut pas tout faire en même temps. Par contre, tu peux prendre 3 ans pour être un bon crossfitter, après arrêter et passer 5 ans à être un bon danseur. Au bout de 8 ans, tu seras et un danseur et un crossfitter. Mais sur le moment, tu peux pas être un bon crossfitter et un bon danseur. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que chacune de ces disciplines prennent, comme on disait, un temps conséquent de batterie en fait. Ça prend une force mentale, ça prend une discipline et ça prend aussi beaucoup de temps pour faire des progrès. Tu vois, là où il y a beaucoup de gens qui se disent, bah si j'ai envie par exemple d'être un bon mover, faire du bon mouvement, j'ai juste à faire, je sais pas moi, la danse le lundi, mardi c'est Muay Thai, mercredi c'est CrossFit. Ben non, et en fait, en faisant ça, tu auras trop peu de volume d'entraînement dans chacune des disciplines pour être bon. Tu vois, l'idée d'être un bon, on va dire un bon généraliste, c'est d'être déjà très bon dans chacune des spécialités, tu vois, voire expert. Et c'est ça la clé et l'astuce. Mais pour faire ça, il faut accepter de voilà changer notre la manière dont on élague, dont on étend notre temps de vie, tu vois. C'est comprendre que 3 ans à faire une seule chose, et ben c'est bon en fait. Tu seras compétent dans cette chose-là, tu vois. Mais il faut les prendre, ces 3 années-là. Et c'est là où beaucoup de gens ont du mal. C'est qu'ils arrivent pas à voir les choses étalées sur des longues périodes de temps. Donc, ils se disent, voilà, si je veux être en bonne forme, bah, il faut que ça me prenne un programme de 3 mois de sèche, tu vois. Et c'est pile 3 mois. Mais non. Être en bonne forme, c'est l'histoire d'une vie, en fait. Et c'est de se dire, bah, tu sais quoi, je vais prendre 3 années pour faire tout ce qui est renforcement, tu vois. Après, je prendrai 3 années pour faire peut-être tout ce qui est compétence, tu vois. Etc, etc. Et au final, à toute ta vie, tu seras sec, musclé, plein d'énergie, pas de problème de peau, pas de problème de perte de cheveux, pas de problème. Et en fait, tu les auras pas, ces problèmes, parce qu'en fait, tu comprends que c'est sur du très très long terme et tu mets, tu gères ta vie sous forme cyclique, tu vois, comme toi tu l'as mentionné, tu vois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour être capable, de gérer justement sa vie de manière cyclique, c'est, comme tu dis, on peut pas se concentrer sur plein de choses en même temps. Il faut faire une chose à la fois. Et ça, c'est marrant que t'en parles, parce que moi, il y a quelques années, j'ai lu un bouquin qui s'appelle The One Thing. Je crois que c'était Gary Keller et un autre entrepreneur. Et en fait, où il te parle, et le sous-titre, c'était How to Achieve Extraordinary Results, donc comment atteindre des résultats extraordinaires, un truc comme ça. Et justement, il prône cette idée, il faut se concentrer sur une seule chose. Mais vraiment, tu vois. Et que même, comme tu le disais, des fois dans la vie, bah, on a 2-3 choses, on jongle un peu avec 2-3 choses dans les mains. Si on réfléchit réellement, il y en aura toujours une qui va être prioritaire. Toutes les choses dans la vie, pour moi, elles ne se valent pas. C'est-à-dire que le temps passé avec tes enfants à jouer et avoir un corps capable de rouler avec ta petite fille, etc., ça n'a pas la même valeur que passer 10 ans en entreprise et essayer de gravir les échelons. C'est tout. En fait, les choses, elles ne pèsent pas. Elles ont pas le même poids sur la balance de la vie, tu vois. Et donc, quand on est conscient de ça, il y aura toujours une chose qui va prévaloir, qui va être supérieure aux autres. Et évidemment, ça, c'est à nous de gérer ça, c'est à nous de hiérarchiser, comme tu disais, c'est à nous d'en mettre la priorité. Mais une fois qu'on accepte ça comme étant un état de fait, on comprend que toutes les autres choses comme, le multitâche, organiser la semaine de sorte à faire plein de choses en même temps. Tout ça, pour moi, c'est du bullshit, en fait. C'est l'ego qui parle. C'est une impossibilité. Il n'y a rien dans la nature qui fonctionne comme ça. Quand tu chasses, tu chasses. Quand tu pêches, tu pêches. Quand tu dors, tu dors. On fait pas plusieurs choses en même temps. C'est pas possible. Et donc, pour être compétent dans quelque chose, ou pour extraire le maximum de sagesse d'une chose, il faut s'y dédier à 100%. Tu verras pas un papa heureux, avec ses enfants et qui t'a dit, ouais, j'ai fait à peu près 60% dans mon travail et 40% dans mes enfants. Ben non. Un mec qui fait ça, il sait très bien qu'il va abandonner une partie de la joie et de la relation qu'il va avoir avec ses enfants au profit de son travail. Donc après, c'est à lui de gérer. S'il a envie de le faire, il a envie de le faire. Mais par contre, les conséquences, elles vont être plus tard que bah, tes enfants, ils vont être moins proches de toi. Donc ils auront peut-être tendance à te cacher des choses, etc. Donc tu vois, les choses, elles ont pas le même poids, jamais, tu vois. Et donc là, dans ce bouquin, il y a un peu ces aspects-là, tu vois, que on doit se concentrer sur une seule chose pour en extraire le maximum, et qu'il y a toujours une chose qui est prioritaire par rapport à d'autres. Et comme tu disais, accepter que la vie, elle est suffisamment longue. Et donc, on peut se permettre de faire plusieurs cycles. On peut se réinventer, on peut changer, on peut évoluer, on peut passer du tout au tout. Et ça, c'est vrai que peut-être en France ou en Europe, on a un peu, on rejette un petit peu cette idée de mercenaire. Tu vois, tu vas à un entretien d'embauche et tu montres sur ton CV que tu as eu 4 boulots les 7 dernières années, ils vont automatiquement dire que cette personne est instable. Au lieu de, ils vont se dire, bah non, cette personne, elle est curieuse, elle est entreprenante, ça veut dire qu'elle a plein de compétences, ça veut dire qu'elle est courageuse, etc., etc. Tu vois, là où peut-être, bah, toi comme moi, on pourrait penser ça de quelqu'un, tu vois, qu'il est, il a plusieurs couleurs et il s'est dédié 2-3 ans dans chacune des disciplines pour être compétent, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que ces deux points-là, l'idée que la vie, elle est cyclique et de se concentrer sur une chose à la fois, c'est, mais fondamental pour moi, en tout cas, pour tous les aspects de la vie. Pas que l'aspect sportif, tu vois, à partir duquel on vient d'élaborer ça, mais sur les autres aspects de la vie, tu vois, même les relations, etc., tu vois. Donc ouais, je bois tes paroles pour le dire simplement.
Et je te rejoins tout à fait, et ça rejoint un concept que j'avais lu très jeune et qui m'a toujours beaucoup marqué. Je crois que je devais avoir 18 ans au début où je me penchais sur le développement personnel, tout ça, etc.
Ah, bien.
Ce qui était PNL, des choses comme ça qui me passionnent encore aujourd'hui. C'était le principe un petit peu du trio health, wealth and relationships. Le côté un peu santé, business et relations humaines. Et je trouve que on pourrait presque dire dans la vie, même à travers le bouquin que tu cites, c'est que c'est vraiment ça. En fait, t'as 3 grands pôles. Donc ton pôle santé, ton pôle business, travail et ton pôle relations humaines. Où en fait, des fois, il faut savoir dans quel pôle t'es en train d'investir.
Ouais.
Et accepter que ces 3 pôles ne seront jamais à égalité. Il y en aura toujours un supérieur à l'autre et un toujours plus bas que les autres. Et que justement, dans cet aspect cyclique et un peu que moi, j'aime beaucoup faire dans la vie, que je trouve drôle, c'est de se dire, OK, en ce moment, j'ai, par exemple, ma santé qui est au top, mon business qui est au top, mais je vois un peu moins mes potes, je fais un peu moins de rencontres, je suis moins stimulé d'un point de vue social. Ah bah tiens, comment je vais pouvoir diminuer, par exemple, mes entraînements pour aller voir plus de potes, pour pouvoir remonter ma jauge un petit peu de relations humaines, pour ensuite, après, réimplémenter ça dans mon business, mais du coup mon sport ça sera un petit peu inférieur et du coup je vais me réinvestir derrière là-dedans. Et c'est ça qui rend les choses marrantes, c'est ça qui rend les choses stimulantes. Et je trouve que d'un point de vue mode de vie, c'est une façon très très globale, hein, très minimaliste de voir un peu la vie découpée en trois pôles, mais ça permet vraiment de se dire ok, où c'est que j'en suis. Et la deuxième chose, ouais, sur comme tu disais, c'est que ouais, à vouloir tout faire, en fait tu te perds. C'est tant que, j'ai presque envie de dire, tant qu'une chose n'est pas devenue une routine dans ta vie, une routine dans le sens où tu la maîtrises complètement, ça sert à rien de vouloir se lancer dans autre chose, quoi.
Ouais.
Tant que tu maîtrises, comme tu dis, tu parlais du crossfit et de la danse, en fait, tant que tu maîtrises pas, tant que t'as pas un bon niveau de danseur, ça sert à rien de commencer le crossfit parce que tu vas te retrouver à être nul dans deux trucs, avoir plus de risques de te blesser. Et au final, voilà, c'est comme le mec qui a envie de fonder une famille alors qu'il bosse comme un acharné. Mais en fait, tu vas être moins bon dans ton travail, tu auras pas du tout pas de temps pour ta famille et tes gamins, et au final, tout le monde sera malheureux.
Exactement. Putain, mais
développe ton business, accepte de mettre de côté ta vie perso, et une fois que ton business est lancé, fais comme tous ces gens, voyage, rencontre l'amour de ta vie, et vis avec ta famille, et mets pas tes gamins chez une nounou parce que t'as jamais le temps de les voir, quoi.
Amen. Amen. Et ça, c'est vrai que c'est, dit comme ça, tu vois, ça semble tellement logique, et pourtant, il y a peu de gens qui le voient, parce que c'est vrai qu'on peut être, on est pris en fait par l'intensité du moment, tu vois, il y a des choses aussi qui te tombent dessus que tu peux pas gérer ou que tu peux pas prévoir ou on va dire prédire, et c'est vrai que tu dois t'adapter sur le moment. Mais comme tu dis, en fait, il y aura toujours des concessions à faire, il y aura toujours des choix. Et comme tu dis, si tu joues un peu avec ces différentes jauges là déjà, faut en être conscient. Mais si une fois que tu en es conscient, t'acceptes de diminuer une partie pour nourrir l'autre, et que tu comprends que peut-être plus tard tu auras une autre occasion de rebooster le physique et réduire les relations parce que peut-être tu seras plus stable, tu auras des enfants, c'est vrai que tu auras peut-être moins besoin de rencontres et donc tu vas diminuer cette zone-là et peut-être justement te mettre tarif avec le sport, tu vois. Et c'est ça en fait. C'est si tu comprends que la vie elle fonctionne comme ça, et ben en fait, tu peux gérer ta vie au mieux et tu la rends beaucoup plus simple. Tu as moins d'énergie mentale qui est prise à essayer de gérer que des situations de crise, tu vois, parce que pour avoir à gérer zéro situation de crise, il faut prévoir les crises, tu vois. Et pour prévoir les crises, il faut vraiment mettre les choses, faut les rendre les plus simples possibles. Si dans ta vie tu penses qu'il y a 50 jauges, tu vas vivre une vie qui est totalement différente de quelqu'un qui pense qu'il y a que 3 jauges à gérer. Et voilà, en fait, c'est voir qu'est-ce qui est vraiment superflu, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est ce dont tu as besoin immédiatement par rapport à ce que tu peux déléguer ou ce que tu peux rendre vraiment disponible plus tard. Et moi, à titre perso, c'était aussi une des raisons sur le côté, tu sais, j'ai quitté Insta. C'était ça aussi. C'était en fait, c'était trop consommateur en temps par rapport à la récompense que j'en tirerais, tu vois. Par rapport au niveau business, même relationnel ou même au niveau de ma santé émotionnelle dans mon quotidien, tu vois. Et donc, au final, j'ai décidé diminuer cette jauge-là, donc diminuer cette présence réseau social, etc. Par contre, tu vois, là, depuis 2-3 semaines, ça me permet de booster la partie, le contact avec mes élèves, des lives beaucoup plus longs, beaucoup plus de créativité parce que je suis beaucoup plus reposé. Je peux dédier mon temps à, tu vois, là, je suis en train de refaire, tu vois, mon site de formation, etc. Bref, il y a plein d'améliorations qui sont possibles parce que, justement, tu as accepté de diminuer une jauge dont t'as plus besoin, qui était un peu la jauge pour moi, genre sociale, etc. Là où je suis plus en mode ermite, créatif, et voilà, c'est accepté que voilà, ça va être amené à changer plus tard, et qu'il y a pas de souci, tu vois. Donc ouais, faut accepter, quoi.
C'est complètement d'accord. Complètement d'accord, et j'aurais presque envie de dire, c'est même un peu s'inspirer, d'une chose qui est un petit peu connue, c'est ce qui s'appelle la matrice de Eisenhower.
Ouais.
Tu sais, c'est cette fameuse matrice où tu dis, qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est urgent et pas important, qu'est-ce qui est important mais pas urgent, et qu'est-ce qui en fait qui est pas urgent et pas important. Et en fait, c'est sur ce carré, un peu savoir où t'en es dans ta vie. Et comme tu dis, t'as quitté Instagram parce qu'en fait, c'était quelque chose qui devenait qui était important, mais enfin qui était urgent mais peu important, et qu'en fait, ouais, qui t'apportait moins de bonheur. Et là, je sais, parce qu'on a beaucoup discuté ensemble, et t'es en train de déléguer ça pour que justement t'as cet aspect important, parce que nous, on s'est connus grâce à ça. Ton business, il se lance aussi énormément grâce à ça. Mais pour autant, d'un point de vue de ta vie de tous les jours, c'est quelque chose qui était chronophage, qui te rendait plus heureux et plus forcément disponible pour les autres. Et voilà, accepter un moment, en fait, de déléguer et une fois de plus, comme voilà, d'être cyclique. T'as construit ton truc, t'as fait un boulot monstre. Et maintenant, se concentrer sur autre chose. Comme tu dis, ton site internet, YouTube, les différents trucs. Enfin, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui est clé dans ce que tu dis. C'est vraiment cet aspect de, voilà, de se poser et prendre le temps de réfléchir sur soi et sur son organisation, quoi.
Eh ben écoute, amen. Et justement, toi, à titre un peu plus personnel, on quitte un peu le monde du concept et on retourne à la réalité physique. Toi, de ton côté, raconte-nous un peu. Je pense que ça peut aider les gens à comprendre tes choix personnels avec ton travail et le fait d'avoir quitté la France. Je crois que c'était quoi, il y a quelques mois, il y a un mois ou deux mois, je sais plus quand exactement, pour la Réunion. Justement, toi, dans la gestion de ta vie, t'as pris cette décision pour quelle raison, si tu peux partager tout ça.
Alors, moi, par rapport à récemment, le fait d'aller sur l'île de la Réunion, c'est un petit peu un biais parce que du coup, moi, je suis en quasiment dernière année d'internat de médecine, donc j'ai quand même passé ma thèse en avance. Mais pour s'inspirer de ça, on va se dire que moi, j'ai toujours voulu, je m'étais, en gros, ma sur-spécialisation en tant que médecin urgentiste et smuriste, c'est 4 ans. Et globalement, j'ai toujours dit que sur ma 3e année, je voulais partir sur une île ou partir, entre guillemets, au soleil, d'un point de vue personnel pour voir si c'est une vie qui me plaisait, chose que je doute pas parce que j'ai déjà beaucoup voyagé,
ouais.
Mais c'était aussi pour voir comment se passait la médecine à d'autres endroits, mais en sachant qu'on est obligé de rester en France. Donc du coup, moi, j'avais un peu accès sur différentes possibilités. Il y avait Nouvelle-Calédonie, Tahiti, île de la Réunion, un peu voilà, toutes ces destinations un peu de rêve. Mais je savais que quand j'y serais, d'un point de vue médical, il y avait un vrai intérêt, ça, je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais surtout d'un point de vue personnel, de voir une autre façon de vivre. ce que j'ai fait un petit peu, voilà, je me suis dit, bah, en fait, t'as ta thèse à passer normalement en fin de troisième année. Mais si tu vas sur une île pour vivre l'expérience à fond, l'intérêt, c'est aussi, en fait, de pouvoir vivre une fois que tu y es.
Ouais.
Donc, ce que j'ai fait, en fait, du coup, l'année qui précédait ça, j'ai accepté de moins sortir, de voir moins de potes, de réorganiser ma vie sportive et autres pour pouvoir bosser ma thèse. Parce que j'ai eu la chance d'avoir de trouver un directeur de thèse qui me suivait dans ce projet, de bosser ma thèse. Et en fait, j'ai passé ma thèse en avance, ce qui fait que là, au lieu d'être comme certains potes à moi qui sont en train de se dire « Putain, merde, dans 6 mois, faut que je passe ma thèse parce que voilà, faut que je valide ça pour pouvoir exercer », ben, moi, je me retrouve à l'avoir déjà passé. Donc, moi, l'intérêt était doux parce que je voulais aussi la passer pour des raisons familiales, on va dire. Mais du coup, je me suis retrouvé vraiment à partir. Tu vois, mon directeur de thèse, la première chose qu'il m'a dit après que j'ai passé ma thèse, il m'a dit « Bonnes vacances, docteur », tu vois. Ça, c'est vraiment le petit clin d'œil du « Ben écoute, je sais que tu vas là-bas pour bosser ». Et là, moi, d'un point de vue professionnel, c'est incroyable. D'un point de vue médical et urgent, c'est j'en apprends tous les jours encore plus et c'est génial. Et pour autant, à côté de ça, voilà, il y a la réunion. Il faut savoir qu'à 5h30 du mat, le soleil se lève. Ben, tous les matins, à 5h30, 6h, je suis debout. Je vis une journée avant de commencer le taf, quoi.
Ouais.
Et donc, j'ai envie de dire, ouais, dans sa vie, je pousserai même encore plus loin. La période des concours de première à sixième année de médecine, bah, je savais que pendant 1 ou 2 ans, c'était la tête dans le guidon. Première année, c'est ce que je disais souvent, parce que quand t'es trop en deuxième année, t'as des filles qui sont première année, donc que tu coaches, entre guillemets. Moi, je leur disais, les gars, votre vie, vous l'oubliez. C'est dur, mais si vous voulez faire médecine, tout le monde te racontera ça en médecine. Enfin, tout le monde. Une grande partie te racontera que, bah, en fait, leurs potes de lycée, ils les voyaient plus, qu'ils ont perdu des potes parce que.
Ouais.
Certains comprenaient pas. Mais pour autant, t'es prêt. Moi, mes rêves d'enfance, ça fait plus de 20 ans qu'on est potes. Un vendredi soir, non, je peux pas parce que je suis en train de bosser ma biochimie et que j'ai un tutorat le lundi. Donc, en fait, je peux pas, les gars. Et les gens comprennent pas forcément, cet aspect de se dire, voilà, pendant un certain temps, tu mets certaines choses de ta vie entre parenthèses et tu fous cette baissée, quoi.
Ouais.
Et ce qui donne ensuite, après, bah voilà, maintenant, moi, je fais le métier de mes rêves. Tu me retrouves sur une île paradisiaque avec plein de projets sur les 1 à 2 ans à venir. Voilà, où physiquement, tu te sens bien, où t'es entouré de gens qui sont remarquables. Hein. Et bah, tu te dis, en fait, voilà, ça a pris peut-être 9 ans pour construire tout ça. Mais au moins, t'y es arrivé et c'est juste génial, c'est que du bonheur.
Amen.
Et ça me motive encore plus pour la suite.
Amen. Et c'est ça aussi, cette idée d'avoir, comme on disait, hein, cette vision un peu plus long terme. Et là, justement, tu jouis un peu des fruits de ton labeur. Et je sais qu'on en a parlé un peu, mais là, ce serait bien si tu pouvais t'étendre un peu là-dessus, là, sur ces projets à long terme et le rapport un peu avec cette idée dont tu parles assez souvent, ce thème un peu général sous-jacent qui est rééquilibrer un peu sa vie, tu vois, avoir la bonne relation entre le corps, le cœur et l'esprit. Toi, je sais aussi que de ton côté, t'as fait pas mal de choses. On s'est rencontrés aussi à travers un stage. Donc, ça veut dire que t'es déjà dans cette idée d'acquérir du savoir supplémentaire, d'aller ailleurs. Et je sais que t'avais parlé aussi de, par exemple, le travail de respiration. Tu nous en as parlé aussi au début, la méditation. Là, justement, est-ce qu'il y a, un peu, peut-être un avenir assez proche dans lequel tu te vois, soit exercer ou soit mettre un peu en rapport toutes ces différentes dimensions que tu as eu la chance soit d'apprendre, soit d'expérimenter. Donc voilà, essaye de nous en dire un peu plus si t'as envie de partager tout ça.
Complètement. Et si jamais je me perds en route, tu n'hésiteras pas à me redire les tenants et les aboutissants initiaux parce que c'est compliqué, non, c'est mon sujet. Mais en fait, j'aurais envie de dire, c'est de savoir... qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et partir un peu d'une image globale et la recentrer progressivement.
Ouais.
Et moi voilà, j'ai toujours été passionné de développement personnel, donc j'ai toujours eu un peu cet aspect de me dire, en fait, tous les jours je veux être une meilleure personne que hier et être la meilleure version de moi-même. Et qu'est-ce que c'est? Bah, une fois de plus, si on prend ces trois secteurs de santé, de relations, de business, bah en fait, j'ai envie de faire le métier de mes rêves sans que ça bouffe ma vie. Donc moi, je me vois très bien exercer dans la médecine d'urgence parce que c'est quelque chose qui me passionne, aider les gens avec en plus ces décharges d'adrénaline que j'adore, et c'est là vraiment où je me sens efficace et utile, et pour rien au monde, je ferai une autre spécialité médicale. Mais réussir à vivre à côté, Et si on prend l'aspect santé en dehors du fait classique de dire j'ai envie d'être en bonne santé, etc., mais qu'on retrouve dans le mouvement, et c'est l'essence presque même du mot mouvement en général, c'est ben, en fait être capable à 30 ou 40 ans on me dit viens on va faire un foot, ok, il y a pas de souci, je sais jouer au foot, je suis pas le meilleur, mais je sais jouer au foot, je sais mettre des buts, je sais me déplacer sur un terrain, ok, on va faire une ascension, on va faire un 5000 en altitude, etc., ok, mais en fait je me pose même pas la question de savoir si je vais y arriver ou pas, parce qu'en fait je sais que dans mon background je peux le faire, ok, on va aller faire de la plongée, ouais cool, je suis chaud, on va faire de la chute libre, là on traverse la France en voiture, on va conduire 6 heures le cul sur une chaise, ok, c'est pas grave, je sais que je peux rester concentré 6 heures. Viens, on va bivouaquer, viens, on va grimper. Et toujours de se dire, en fait, cette polyvalence, de se dire, en fait, je peux faire ce que je veux. Et c'est quelque chose que tout doucement, je commence à toucher du doigt. Tu vois, la dernière fois, en repos de garde, on est allé, on montait le piton de la le piton des neiges, du coup, qui est le plus haut sommet de la Réunion et de l'océan Indien, qui est entre guillemets que à 3000 mètres. Mais tu vois, tu fais ça le lendemain d'une garde où t'as pas dormi pendant quasiment 24 heures. Et en fait, la question d'arriver en haut, elle s'est même pas posée une seconde. Et moi, j'ai vu des gens se dire, ouais, je sais pas, tu crois qu'on va y arriver, tu penses qu'on va mettre combien de temps, etc. Et en fait, bah, la question, elle se pose pas. Et je trouve que ça, dans l'objectif à très long terme, c'est quelque chose qui est juste remarquable de pouvoir vraiment vivre. Je pense que s'il y a un mot, c'est, voilà, le fait de se sentir vivant. Et à travers ça, justement, on arrive à le retrouver. Et tu soulignais l'aspect méditation, respiration. Donc ça fait une petite transition un peu sur une chose où je m'étais pas mal formé et un beau projet que j'aimerais faire naître avec toi, c'est que pour ceux qui connaissent pas, moi j'étais pas mal formé sur ce qu'on appelle la méthode Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est le mec, quand t'es médecin que tu le vois, tu te dis, alors lui c'est un charlatan. Le mec, la grosse barbe, toujours à moitié à poil, qui parle avec un accent à couper au couteau, un polonais, tu te dis, alors ce mec c'est une tête brûlée. Et en fait ce mec, sa spécialité, c'est l'exposition au froid. C'est-à-dire que ce mec, il a des records du monde de temps passé en immersion dans la glace en Antarctique, à monter l'Everest en short t-shirt, à faire un semi-marathon pieds nus dans la neige, des choses un peu ésotériques. Et en fait, il a utilisé pour se faire connaître. Et en fait, c'est une méthode très simple qui est basée sur l'exposition au froid. Et en fait, le froid, c'est un outil très très intéressant aussi pour les gens qui veulent se développer sur le plan développement personnel et se réapproprier leur corps. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un stress extrême. On sait tous cette sensation de quand tu plonges dans un lac froid, ça te prend aux tripes, ça te prend à la respiration, t'as le souffle coupé, ton corps il est en mode stress extrême, t'as toutes les lumières qui s'allument, etc. Et du coup, en fait, c'est un stress extrême, mais avec des très faibles conséquences. Contrairement à quand on te met des coups, quand tu fais la bagarre, bah t'as pas de traces. Contrairement à une brûlure avec du feu, ben en fait t'as pas de traces, ça laisse pas de marque, mais pour autant ça d'un point de vue médical, d'un point de vue physique, ça te met vraiment dans un stress qui est extrême.
Ok.
Et en fait, par l'utilisation du coup du froid avec de la glace, donc lui c'est pas les lacs à 10 degrés, c'est si tu casses la glace et tu vas te mettre dans de l'eau entre 0 et 5 quoi.
Ouais.
Et en fait c'est vraiment se réapproprier son corps, réapprendre à stresser, et en fait tu le trouves, et la finalité elle est là. C'est que tu trouves un aspect déjà très méditatif,
ouais.
Parce qu'en fait, tu te ressens sur toi-même, tu apprends à contrôler tes émotions, tu apprends à gérer cette alerte. En fait, quand tu es dans le froid, ton premier réflexe, c'est que tu as envie de sortir de la glace en courant, en mode « non, mais je retourne au bord de la cheminée avec mon petit pied, je suis beaucoup mieux ».
Ouais.
Et en fait, tu réapprends à prendre contrôle sur tes émotions, et avec aussi cet aspect un peu primaire et animal de… En fait, tu es en maillot de bain dans la neige, dans la glace, et tu baignes dans une cascade, où tu vas faire… Ce qui nous arrivait de faire des randonnées où t'es à 2000 mètres d'altitude, t'es avec ton t-shirt de bain d'été, et tu fais une rando de 2 heures.
Ouais.
En fait, c'est vraiment se sentir libre et vivant. Et du coup, je me suis égaré en chemin, forcément, hein, comme j'ai dit. Mais ça fait cette transition sur l'aspect de vivre.
Ouais.
De vivre, de trouver ses outils pour vivre et se sentir vivant. Et que la vie, c'est ça.
Ouais.
En fait.
Bah, écoute, c'est mortel. Et là, justement, toi, comment t'en es arrivé à trouver Wim Hof, à t'intéresser à la respiration, et comment tu l'implémentes dans ton quotidien?
Alors, comment je l'ai trouvé? Bah, pareil, fait du hasard, tu vois. Mais je crois pas. En fait, je crois pas au hasard. Je crois en saisir les opportunités qui sont présentées.
Ouais.
Et j'étais un dimanche avec mon papa, regarder la télé. Tu vois le truc qu'on fait rarement, mais on regardait une émission, je ne saurais plus trouver le nom, et en fait, ça a parlé de l'IMOF, et j'ai fait à mon père, tiens, ça, tu sais, mon père qui a 75 ans, je lui dis, ça te dirait d'aller faire ça avec ton fils et tout. Il dit, ouais, ouais, pourquoi pas, etc. Mon père, il me dit, non, toutes mes bêtises. Et on s'est retrouvé à aller faire un stage avec IceMind, qui est Jean-Philippe Tual, qui est un des premiers disciples français de l'IMOF. Et en fait, voilà, exposition au froid, où on te met dans une piscine glacée de 3 minutes. Et voilà, quand t'es un peu sportif, que t'es déjà un petit peu axé développement personnel, tu te poses pas trop de questions, tu te dis, bah, 3 minutes, même si c'est inconfortable, je vais y aller au mental, ça passera, quoi.
Ouais.
Et, donc, ça s'est très bien passé. Mon père a réussi, lui, c'était un peu là, une révélation, parce que lui, il ne baignait jamais dans des eaux à moins de 27 degrés.
Ouais.
Et en fait, j'ai découvert, du coup, l'aspect respiratoire de la méthode Wim Hof, qu'en fait, une respiration que tu fais préalablement à te mettre dans le froid, initialement, à terme, tu le fais plus, mais au début, c'est très intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, sur cet aspect, même si j'ai pu critiquer de façon amicale Wim là-dessus, sur l'aspect gourou et l'aspect charlatan, c'est qu'en fait, tout s'explique sur le plan médical. En fait, c'est une respiration qui va être assez violente, où tu vas en fait mettre ton corps dans un état de stress, que tu vas relâcher toutes ces hormones de stress, les hormones de surrénales, qui font qu'en fait, ton corps arrive déjà dans un mode guerrier.
Ouais.
Et en fait, tu te rends compte que quand tu arrives dans le froid, tout se passe bien et tout va bien. L'exemple typique, qui est moins jovial, un peu plus morbide, c'est quand on prend les événements qu'il y a pu y avoir à Paris, au Bataclan, des choses comme ça, ou les gens qui, les blessés de guerre. Nous, des fois, on voit des gens qui arrivent typiquement avec une balle dans la jambe, mais qui sont quand même capables de taper un sprint de 100 mètres, ou 200 mètres, et qui s'effondrent en arrivant à l'hôpital.
Waouh.
Tu te dis, et en fait, physiquement parlant, tu te dis, en fait, ces mecs, ils ont la jambe qui est éclatée, comment ils font pour marcher? En fait, ça montre bien, une fois de plus, le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de se dire, en fait, passer au-delà de la limitation, au-delà de la douleur,
ouais,
grâce à toutes ces hormones, grâce à toute cette détermination. Et là, c'est un peu ça, en fait. C'est qu'en gros, tu te mets dans cet état guerrier, tu te mets dans la glace et tu te rends compte, en fait, tu es bien et tu vas pas mourir. Et tu réapprends, du coup, tout cet aspect. Donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant.
Ouais.
Et pour l'implémenter dans sa vie de tous les jours, bah, c'est voilà, c'est réapprendre à stresser. Les méthodes respiratoires de Wim Hof, certains arrivent à les faire tous les jours, comme d'autres pourraient faire leur méditation.
Ouais.
Moi, je sais que personnellement, j'ai un peu plus de mal parce que c'est quand même des respirations qui peuvent être un petit peu violentes le matin. Et moi, je sais que le matin, même si je suis du matin, que je saute du lit au premier réveil, j'aime bien un peu être cocooning. Mais rien que le fait de prendre une douche froide. Et pareil, les gens, ils disent tous, ouais, prendre une douche froide, c'est désagréable, gna gna gna, etc. Et, voilà. Une fois de plus, comme on disait, apprendre à s'écouter, apprendre à s'adapter. Moi, ce que je disais aux personnes que j'ai pu suivre, du coup, sur cette méthode Wim Hof, que j'aurais presque envie de dire que j'ai coaché, je leur dis, bah, en fait, au lieu de prendre ta douche froide, prends ta douche chaude, tu te laves, et en fait, tu viens te rincer au froid. Pourquoi se rincer au froid? Parce qu'en fait, quand t'es couvert de savon sous ta douche, dans tous les cas, tu vas être obligé de te rincer. Donc, une fois de plus, tu vas prendre la discipline d'utiliser le froid, mais tu vas l'adapter de façon intelligente pour que ça te draine pas trop de force mentale de grand matin.
Ouais.
Donc tu vas te dire, ok, je profite du chaud, une fois que je suis savonné, que je suis plein de savon, là je sais que je me rince au froid. Donc dans tous les cas, t'es obligé de passer quelques secondes sous le froid. Au bout de quelques secondes, qu'est-ce que tu vas te dire? Ben, en fait, que t'es pas mort et que ça va aller. Tu respires, tu te détends, et en fait après, tu finis ta douche. Moi, je finis toutes mes douches par à peu près 3-5 minutes d'eau froide. En fait, voilà, tu te dis, bah, j'ai réussi à lier l'utile et l'agréable. Et je trouve que dans la vie, voilà, tu sors ta douche, tu te dis, bah, j'ai déjà fait une chose bien, j'ai déjà lutté contre ma procrastination de ne pas vouloir faire quelque chose. Et le froid là-dessus est un outil qui est vraiment exceptionnel.
Amen. Moi aussi, je suis grand partisan de cette méthode, et je l'utilise, tu vois, depuis maintenant plusieurs années, notamment l'exposition au froid. Moi, c'est pareil. Douche froide obligatoire. Matin, que ça soit l'été, le printemps ou l'hiver, c'est obligatoire que je fasse ça. Et après, les respirations, un peu comme toi, pendant peut-être un an et demi, j'étais toujours à les utiliser tous les matins. Et après, au final, comme j'étais, bah, de moins en moins dans des compètes ou des trucs comme ça, et j'étais plus dans l'esprit de, bah, maintenant, je vais enseigner, donc je commençais à faire de plus en plus de stages, etc. C'est vrai que c'est un peu trop violent pour ça, tu vois. Et donc là, je me remettais à d'autres formes de respiration où j'avais moins besoin de me lever le matin et de me dire, bah, tu vois, quand tu fais de la compète, tu te lèves le matin, c'est bien d'avoir cette respiration. Surtout après, si tu dois taper 10 rounds de sparring, tu dis, bah, au moins, je serai chaud, quoi. Mais là, si après tu vas enseigner, ou si tu vas voyager, ou si tu vas bosser tranquillement, c'est vrai que maintenant, il y a d'autres approches où tu peux prendre des choses qui sont un peu plus douces. Mais il y a un point là que tu mentionnes, enfin, il y en a deux qui sont super intéressants, qui est un, le pouvoir de l'esprit. Mais presque au sens spirituel, au sens pas vraiment la partie scientifique, bah, tu sais, la production de certaines hormones qui font que tu vas pouvoir adapter telle et telle fonction de ton corps, tu vois. Pas trop dans cet esprit-là, enfin dans cette signification-là, mais le pouvoir de l'esprit dans le sens ce que tu es littéralement capable de faire pour passer outre les stimuli physiques. Donc ça, c'est un super point. Bah, si jamais t'as des choses à partager là-dessus, j'adorerais t'entendre là-dessus. Et le second point, autre que le pouvoir de l'esprit, mais qui est un peu relié à ça, c'est tu disais que bah ça, tu te rends compte avec une petite exposition au froid que tu vas pas mourir. Et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans un autre podcast. C'est quelque chose qui est peut-être un peu morbide, mais sur le, enfin moi, ça a été un des outils les plus puissants qui m'a vraiment beaucoup aidé par le passé dans cet esprit de développement personnel, qui est l'idée de la méditation sur la mort, sur l'idée de la mort, l'idée de ta propre mort physique. Mais également l'idée de la mort de tes proches, tu vois. Alors je sais que c'est morbide, que c'est pas quelque chose que je conseille spécialement, c'est pas un outil magique, c'est quelque chose que bah moi j'ai été sensibilisé à ça par des lectures, notamment Miyamoto Musashi, mais aussi parce que j'avais déjà un background de méditation au préalable, tu vois, c'est pas quelque chose, tu rentres, tu vois, dès le début tu vas dire vas-y maintenant j'arrête de tout faire et je médite sur la mort pendant 2 heures. Non, mais voilà, ces deux notions-là de bah, le pouvoir de l'esprit dans tout ce qui est la guérison, la régénération du corps, la gestion du stress, etc. Et cette idée de bah on va pas mourir après avoir survécu, enfin après s'être exposé au froid. Pour moi, c'est deux idées qui sont vraiment liées l'une à l'autre. Et c'est une fois que t'as cet aspect-là dans ton quotidien, que ça soit par l'exposition au froid ou par la méditation sur l'idée de la mort, moi je trouve que t'atteins une certaine sérénité, tu vois, une certaine plénitude, et ça te permet d'aborder les situations de la vie qui sont quand tu les compares à l'idée de la mort du corps physique, qui sont dérisoires. Peu importe le stress que tu as dans ta vie, que tu sois un trader à Wall Street, il y a rien qui va te faire plus flipper dans ta vie que l'idée de mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage tous. Donc, si tu médites là-dessus, ou bien si tu t'exposes au froid et tu te, on va dire, par petite dose, très sécurisé, tu te rapproches de cet état-là, et ben au final, tu vois, tu construis aussi une carapace. Et donc voilà, est-ce que toi, justement, ça a été des choses parce que tu disais que tu étais très sensible au développement personnel assez tôt, est-ce que ça a été des concepts, le pouvoir de l'esprit et bah, l'idée de la mort, l'idée de la peur de mourir ou de vaincre cette peur ou de gérer au mieux cette peur, est-ce que ça a été deux choses qui ont que tu as eues sur ta route, quoi?
Alors, c'est deux sujets très, très, très intéressants et à la fois énormes et vastes. Mais sur cet aspect un petit peu pouvoir d'esprit, on va reprendre dans l'ordre. L'aspect pouvoir d'esprit, ouais, c'est quelque chose de juste dingue. En fait, de se rendre compte, tu sais, c'est des éternelles choses dont on parle beaucoup, qu'on utilise un certain pourcentage de notre cerveau et qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas. Et là, voilà, tu vois, c'est comment un peu, j'ai presque envie de dire, mindjacker ton cerveau.
Ouais.
Pour le reconditionner et le casser de ses habitudes et de ses croyances limitantes, j'ai envie de dire. Et ça, je sais que c'est quelque chose que dans les forces spéciales, ils font beaucoup. Qui est un sujet où je m'étais beaucoup intéressé parce que si j'avais été plus égoïste, je pense que j'aurais adoré partir dans les forces spéciales. C'est l'aspect justement de se dire, c'est ce que se disent les Navy SEALs, c'est donc les forces spéciales américaines, enfin un type de force spéciale américaine. Ce qui s'implémente beaucoup, c'est en fait de se dire, quand tu crois que t'es à l'échec, en réalité, t'as utilisé que 40% de tes capacités. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pu voir, c'est dans quelque chose qui, à tout le monde, mais dans la sportif. Et de se dire que, bah, écoute, je vais essayer de pousser un peu plus loin, faire une pompe en plus. Et bah, rien que ça, d'un point de vue physique, ça te prouve que c'est possible. Et donc, ça te fait un cheminement mental, j'aurais envie de dire, qui te dit que ouais, c'est quelque chose qui est réalisable. Et ça, après, c'est quelque chose que tu peux implémenter dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, voilà, ce pouvoir d'esprit qui a, comme tu dis, en dehors de l'aspect chimique, l'aspect un peu, ça rejoint un petit peu sur l'aspect discipline qu'on a pu évoquer, quoi.
Ouais.
Mais pour revenir sur le sujet un peu de la mort, qui est un sujet très 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 intéressant, en plus, c'est quelque chose de très occidental. On vit dans l'illusion de notre immortalité, où on pense qu'on ne mourra pas et c'est devenu tabou.
Ouais.
Il y a beaucoup de cultures dans lesquelles on évoque, comme tu disais très justement, tu vois, là, limite, les gens, ils vont dire, putain, ils sont partis en couille et ça devient morbide. Leur histoire, c'était sympa jusqu'à maintenant, mais là, c'est les deux. Alors, En fait, pas du tout. C'est un sujet comme un autre qu'il faut accepter de discuter. Et moi, typiquement, personnellement, tous les jours au travail, tous les jours, je côtoie la mort. En ouais. SAMU, combien de fois, tu sors sur des arrêts cardiaques, des choses comme ça, t'es confronté à la mort tous les jours. Et tu te rends compte, les gens, même d'aborder avec des familles, voilà, des personnes qui sont en fin de vie, qui ont 90, 95 ans, aborder le sujet du fait que, voilà, le papa, la maman, va peut-être décéder parce qu'on pourra pas l'aider ou sinon on tomberait dans de l'acharnement thérapeutique. Et ben, c'est des sujets où souvent c'est difficile à aborder avec les gens parce que voilà, on est dans cette illusion d'immortalité.
Ouais.
Et je pense que comme tu dis, cet aspect de réfléchir à sa propre mort, sans forcément tomber dans l'aspect morbide, mais d'être conscient qu'un jour on va tous mourir.
Ouais.
Un jour tout va disparaître, un jour tout va s'arrêter, et c'est important de le savoir. Et c'est important d'être conscient. Moi, je sais qu'il y a une citation qui est un peu mon mantra, j'ai envie de dire, qui dans un livre que j'avais lu, que j'adore, mais ça je le réserve pour la fin du podcast.
Ah.
C'est le fait que de vivre dans la peur de mourir, en fait, tu vis pas. L'idée, c'est simple, c'est qu'en fait, à travers la peur de mourir, et ben en fait, vient la peur de vivre.
Absolument.
Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'en fait, c'est le principe des gens qui ont toujours peur et qui disent « Ouais, mais si jamais il se passe ça, et si jamais il se passe ci ?» Et on le voit très bien. Aujourd'hui, les enfants, moi, je vois quand on a de la pédiatrie, les enfants, quand ils tombent, ou qu'ils se cassent quelque chose, la moitié des parents, limite, ils sont en train de les engueuler. En mode « Ouais, t'aurais pas dû monter à l'arbre, t'es tombé, tu t'es cassé le poignet, ah, bah, c'est compliqué, etc. etc. » Alors que non, je pense que le secret, c'est de leur dire « T'es tombé, tu t'es fait mal, ok, comment on va pouvoir améliorer ça? Pourquoi ?» La prise de risque, c'est quelque chose de normal, c'est pour vivre, t'as besoin de prendre des risques, parce qu'on mourra tous un jour. C'est malheureux à dire et c'est jamais facile à accepter que c'est quelque chose de très difficile. Hein. Moi, je suis le premier à pleurer les défunts, les choses comme ça. Mais c'est d'en être conscient.
Ouais.
Et comme tu dis, voilà, de pas vivre dans cette illusion d'immortalité et que c'est quand même quelque chose de... quand t'en prends conscience, ben en fait, ta vie, elle change. Moi, je me souviens être rentré un jour, j'ai passé un mois à Taïwan, un mois incroyable où j'avais lu ce fameux livre pour laisser un peu de suspense. et comme j'avais dit à mon frère, voilà, j'étais un jour au bord d'une falaise où en mode, tu sais, t'as les pieds dans le vide, etc. Le genre de truc où tu sais que si tu bouges un peu trop, tu tombes, c'est fini, quoi.
Ouais.
Et en fait, tu te sens vraiment, c'est une expérience que j'encourage les gens à faire, mais dans les limites du raisonnable, hein, on va pas pousser les gens à sauter d'une falaise, mais cet aspect d'adrénaline de se dire, en fait, là, je me sens vivant, là, je me sens bien.
Ouais.
Et ben, en fait, moi, je suis rentré, ce que j'ai dit à mon frère, c'est, je lui ai dit, écoute, je pense que si je meurs demain, c'est pas grave parce que je me rends compte que j'ai eu une vie heureuse, que j'ai vécu des choses incroyables pour mon âge. Et d'en être conscient, en fait, tu changes ta vision de la vie. Et comme tu dis, le trader à Wall Street qui est au bout de sa vie parce que la bourse se passe mal, etc., ou même des gens qui sont dans des ruptures avec des ex, où c'est compliqué, etc., de se dire, en fait, ok, je suis pas bien, j'en suis conscient, c'est normal, ça se comprend, mais c'est cyclique, les choses vont redevenir dans l'ordre. Il y a pire dans la vie. Et en fait, ça te libère de beaucoup de choses. Et, et pour faire la jonction avec le froid, bah ouais, quand tu te mets dans le froid, en fait, tu réapprends justement à te dire, bah en fait, je vais pas m'enfuir de ce froid qui au début me fait mal, qui au début me stresse.
Ouais.
Et je vais réaliser qu'en fait, ça me fait pas si mal que ça. Qu'en réalité, j'ai pas plus froid que ça. Et qu'en fait, je peux être confortable, devenir confortable dans l'inconfort. Et du coup, toutes ces choses-là, en fait, te mènent justement à une liberté une liberté, en fait.
Amen. Bah, écoute, c'est exactement ça. Et en fait, faut, pour aller dans ton sens, c'est sympa, en fait, d'essayer de voir tous ces outils comme des outils qui progressivement vont te permettre de te libérer de ces craintes-là, de ces peurs-là ou de ces illusions que tu vas pas mourir. Et justement, comme tu disais, enlever cette peur-là ou apprendre à la gérer plutôt, c'est libérateur et ça te permet de prendre plus de risques, de penser plus positif, d'oser plus et donc de te développer. Mais quelqu'un qui est toujours craintif, c'est à l'opposé du développement. Tu vois, moi, là, j'avais une amie qui me parlait et, elle m'avait toujours dit qu'elle voulait aller à Bali, tu vois, vivre à Bali. Et donc là, moi, il y a un mois, un truc comme ça. Non, il y a deux, trois semaines, ben, je lui dis que j'ai accès à Bali, tu vois. Et donc, je lui donne le tuyau, quoi. Je lui dis, ben, voilà, comment tu peux faire et tout. Premier truc qu'elle me dit, c'est, elle me dit, ouais, combien coûte le visa, tu vois. Donc, moi, je lui dis, c'est 400 euros. Et là, elle me dit, ben, non, c'est mort parce que, je vais pas le payer 400 euros alors qu'avant, on le payait 50 euros. Donc, je préfère attendre que la situation s'améliore et comme ça, je le ferai, tu vois. Et moi, en fait, en écoutant ça ou en lisant son texte, eh ben, en fait, il y a tous ces concepts-là qui me sont revenus en tête, dans lesquels je me suis dit, mais en fait, elle vit encore dans cette illusion, tu vois, qu'elle aura toujours une opportunité de le faire. Elle se dit pas que la semaine prochaine, elle pourrait mourir, tu vois. Et donc, elle se dit pas non plus que Covid, ça pourrait être tout le temps comme ça, en fait. On pourrait être dans ce monde-là jusqu'à la fin de nos vies, tu vois. Et on pourrait être dans cette idée que, un visa, c'est 500 balles et puis c'est terminé, tu vois. Et donc, moi, c'est une petite chose, tu vois. C'est un petit voyage. Enfin, c'est un petit voyage. C'est une petite action, tu vois. On n'est pas en train de dire, vas-y, tu lâches tout, tu changes de job, etc. C'est vraiment, déplacer ton corps physique d'un pays à un autre, tu vois. C'est pas une grosse tâche, tu vois. Et même pour ça, elle est encore dans l'illusion qu'elle aura toujours l'occasion de le faire, que son corps sera toujours en bonne santé pour le faire, que son esprit sera toujours en bonne santé pour le faire, qu'elle aura toujours les finances pour le faire. Enfin, tu sais, il y a toutes ces choses-là qui viennent, qui sont en dessous de ce petit commentaire de « non, je le ferai plus tard », tu vois. Mais le plus tard, ça n'existe pas, c'est une illusion. Et en fait, avoir, par la méditation, par l'exposition au froid, par les lectures, par peu importe les outils que tu peux utiliser, ce rappel à l'ordre, en fait, cette idée que « ton corps physique va mourir, tu vois, il va disparaître. Et tu ne sais pas quand. » Et alors, pourquoi tu ne bouges pas le cul et pourquoi tu fais pas tout ce que tu as envie de faire? Pourquoi tu n'essayes pas d'exploiter tout ce que tu as envie d'exploiter? Pourquoi tu n'essayes pas de vraiment croquer la vie à pleines dents, quoi? De comprendre que c'est ça qui est le plus beau dans la vie, c'est que c'est éphémère, c'est que ça s'arrête. Tu vois, tous les dieux dans toutes les cultures, ils envient notre mortalité. Et c'est parce que c'est réel, c'est le plus beau cadeau qu'on a, c'est qu'on est mortel. Et ça, c'est la meilleure invitation à vivre pleinement. C'est la meilleure invitation. Mais oui. Et tu vois, moi, j'ai du mal avec tous ces petits commentaires. Pour moi, ces petits commentaires de « ouais, je le ferai plus tard », etc. Tu vois, avant, je les jugeais comme étant « ouais, c'est de la fainéantise », etc., machin. Mais en fait, maintenant, je vais un cran au-dessus. En tout cas, c'est ce que je pense dans ma tête. Mais évidemment, c'est pas du tout quelque chose qui va être discriminatoire. C'est pas parce que je pense ça qu'on va pas être amis. Tu vois, chacun la phase dans laquelle il ou elle est. Mais maintenant, je le vois presque comme de l'arrogance, tu vois. Je me dis, putain, mais t'es autant arrogant que tu penses que ta vie va toujours te donner ça, quoi. Tu penses que l'opportunité que t'as maintenant, en étant en France, en bonne santé, en ayant ce passeport, ces finances, etc., que c'est bon, en fait. C'est, you own it, tu vois, que c'est inné. Que tu te rends pas compte que tout ça, c'est déjà une chance, c'est déjà un privilège. Et donc moi, quand des gens me disent « ouais, je le ferai plus tard », que ça soit pour ça ou que ça soit pour « ouais, j'ai envie de lancer mon business, bon, c'est pas grave, je le fais plus tard », pour moi, je suis en mode « mais ça, c'est de l'arrogance ». Il faut être beaucoup plus humble devant ce cadeau qu'est la vie, en fait. Et je pense que ces petits outils-là dont on a parlé, ils aident clairement à relativiser, à comprendre que on est chanceux, quoi, on est privilégié.
Mais ça, complètement, tu pourrais sortir demain de chez toi et te faire renverser par une voiture. Yeah. Tu vois, c'est des choses un peu morbides comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça arrive tous les jours. Moi, je vois tous les jours au taf, tu vois.
C'est ça.
C'est sans dépasser le secret médical, mais il y a encore 2 semaines, un mec, 40 ans, il jouait au squash avec ses potes, arrêt cardiaque, boum, bam, boum, et au final, il s'est jamais réveillé. Mais pour autant, il faut en être conscient.
Ouais.
Tu vois, j'ai 2 éléments marquants là-dessus qui m'ont beaucoup marqué dans mon début de carrière, j'ai envie de dire, médicale. J'ai le souvenir d'une famille qui ils amènent leur papa et au final globalement il s'est mis dans sa tête quelque chose qu'on pouvait pas du tout récupérer et il est mort en quelques heures aux urgences. Mais je me souviendrai toujours de cette fille qui a dit mais docteur au final parce que une fois de plus aborder le sujet du fait qu'il allait mourir c'était difficile c'est compliqué d'aborder avec les familles des patients parfois et je me souviendrai toujours de cette fille qui a eu la lucidité de me regarder et de me dire mais docteur on était en famille. Il était avec ses petits-enfants, on avait bu quelques canons, il est monté sur l'échelle, il est tombé sur le muret, bon bah voilà, mais au moins, il avait 90 ans, il a pu monter sur une échelle, il était avec toute sa famille, et il a pas souffert.
Ouais.
Et là, je me suis dit, purée, mais si tout le monde comprenait ce genre de choses, tu vois, c'est des choses où le mec, bah, en fait, quoi de mieux que de partir comme ça, plutôt que d'être dans un lit, depuis 3 ans, grabataire, à rien pouvoir faire.
Ouais.
Et j'ai aussi un souvenir comme ça, un des premiers patients que j'avais eu en gériatrie, parce que j'y étais passé, donc la gériatrie, c'est les personnes âgées, un mec de 97 ans qui m'avait dit « Mais vous, les jeunes, vous vous rendez pas compte, vous prenez plus le temps de vivre, et vous vous éparpillez dans des choses futiles, mais purée, profitez parce que vous allez regretter les choses que vous n'avez pas faites. Et moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu une vie heureuse et que j'attends pas la mort, mais je vais l'accueillir comme une amie parce que, voilà, il m'avait cité le fait qu'il avait eu une vie heureuse parce qu'il avait épousé sa meilleure amie, qu'il avait eu un seul employeur qui était l'éducation nationale parce qu'il avait été prof toute sa vie et qu'il avait eu le plaisir de voir grandir ses petits-enfants. Et tu vois, en fait, tu dis, ouais, c'est ces gens-là, en fait, ils ont tout compris.
Ouais.
Et tu vois, le mec à 97 ans, bah voilà, il était serein, il était calme, et il était capable de dire qu'il avait une vie magnifique, quoi.
Amen.
Et c'est deux choses. Je pense que c'est important de les partager, de se dire, ouais, oubliez pas que tout a une fin, comme tu dis, tous les dieux grecs, romains, etc., ont vu tous notre mortalité.
Ouais.
Et c'est important d'être conscient.
Absolument, absolument. Et dit comme ça, il y a pas du tout un côté morbide, tu vois. Il y a ce côté. Moi, je vois cette phase-là de la vie comme une autre. Tu vois, c'est lumineux, c'est radiant, c'est abondant, c'est à accueillir avec un sourire et avec la joie dans le cœur. Tu vois. Et ben, écoute, sur cette.
Du tatouage que j'ai sur le pied, tu vois.
Ah ouais. Magnifique.
Je n'ai jamais oublié ça.
Et ben écoute, sur cette pétillante conclusion, je t'emmène dans la phase dans laquelle j'emmène tous les invités du podcast pour conclure et un peu avoir des outils qu'on peut partager avec tout le monde et des ressources, des liens, des bouquins, peu importe, des choses qui sont un peu plus pratiques que les gens peuvent aller soit recharger sur internet, soit commander et utiliser par la suite. Donc les trois mêmes questions. Qui seront évidemment disponibles sur mon site aussi dans le récap un peu de ce merveilleux épisode. Donc on va commencer par la première question. Tu as déjà la réponse, qui est si tu avais un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi ?
Alors si j'avais un seul livre et je l'ai offert à quelques personnes déjà, des personnes qui sont très très proches ou très importantes à mes yeux. C'est le livre de Mark Manson, L'art subtil.
Ah, yes.
Qui est un livre que j'ai juste trouvé magique, qui pour moi m'a transcendé, que j'ai dû lire des dizaines de fois.
Ouais.
Parce que ce livre, malgré son titre très accrocheur, très un peu clickbait, tu vois, avec en plus sa couverture orange, très flashy, en fait, ça reprend et ça apprend, entre guillemets, à se dire qu'en fait, à relativiser, de se dire qu'en fait il y a des choses qui peuvent être plus graves, arrêter de se prendre la tête sur des choses qui sont en fait futiles. Ok, tu vois, typiquement, il y a deux semaines, on m'a pété ma caisse, HS complètement défoncée, ouais. Je venais de l'acheter, poubelle quoi, la casse directe. Et ben écoute, c'est pas grave, j'aurais pu soit m'énerver contre la personne et plus lui parler, la sortir de ma vie et compagnie, ou en fait, ben je suis sorti de la voiture, j'ai appelé l'assurance. J'ai appelé le gars chez qui je l'avais acheté, j'ai trouvé une voiture, deux jours après j'avais une autre voiture, le remboursement de la caisse est arrivé de façon différée, et au final, le plus important en fait, c'était de se dire, bah on n'a rien, tout va bien, bah voilà, pourquoi se pourrir la vie, on passe à autre chose.
Ouais.
Et quelques semaines après, on rigolait. Et ce livre, c'est vraiment voilà, cet aspect fondamental de se rendre compte que la vie, il y a des choses importantes, il y a des choses plus importantes, et contrairement à son titre, où on a l'impression que c'est apprendre à dire « je m'en fous à tout », il y a un machin qui me fait chier, je m'en fous, j'ai perdu mon fric, je m'en fous, c'est pas ça. C'est juste réfléchir sur pourquoi les choses t'impactent et qu'est-ce que tu peux faire pour justement être moins impacté ou récupérer le contrôle sur ces choses. Et ce livre est juste magique pour ça.
Magnifique. C'est vrai que c'est un super livre et que la couverture déjà, le titre et la couverture, il a fait un bel effort marketing. Et je pense que c'était un des best-sellers depuis des années sur Amazon et les autres plateformes. Et ouais, bah c'est cool. Je crois que c'était le premier à le conseiller. Et c'est vrai que c'est un super bouquin à recommander. Voilà quoi. Surtout pour les fêtes, là, c'est un super cadeau. Deuxième question. Si tu devais laisser un message sur Terre, justement après ton départ physique, quel serait ce message ? Ça peut être une citation, une phrase, un mot. Donc voilà, je te laisse nous partager ça.
Moi, ce serait une citation que j'ai commencé à citer tout à l'heure parce que c'est une citation pour moi qui a énormément de sens. Ça serait qu'avec la peur de mourir vient la peur de vivre. Et je trouve que cette citation, elle a une puissance qui est juste monstrueuse et elle conclut énormément ces 2 heures passées ensemble.
Magnifique. Qui est l'auteur de cette citation? Est-ce que tu l'as et de quelle plateforme, bouquin, livre, c'est tiré? Est-ce que tu te rappelles?
Bah écoute, tu vas te foutre de ma gueule, mais l'auteur, je sais qu'ils sont deux à se disputer, mais les deux, j'arrive pas à me souvenir du nom. C'est une citation que j'ai mis en première page de ma thèse de médecine, de docteur en médecine, tu vois, où j'avais fait les recherches justement pour être précis sur qui l'avait faite.
Ouais.
En fait, je te cache pas que j'arrive pas à la retrouver et que j'étais à deux doigts de regarder sur internet avant de te la citer.
Ah ouais,
putain, je vais avoir l'air d'un couillon.
Aucun souci.
Mais c'est une citation qui est justement dans le livre de Mark Manson que j'ai cité avant, que je me souviens avoir lu en bord de ravine à côté d'une cascade, et ce jour-là je me suis dit waouh, ouais, c'est vraiment, ça m'a débouché. Donc j'invite les gens à chercher l'auteur.
t'as gagné la palme, l'invité qui invite les gens à faire leur recherche.
Ah ouais,
j'aime. Non mais t'inquiète, je ferai les recherches et j'essaierai de trouver à qui on peut l'attribuer. Mais en tout cas, c'est une très belle phrase, un très beau mantra, et je pense qu'il y a pas mal déjà de contenu descriptif dans ce podcast pour aider les gens à savoir ce que ça pourrait signifier et comment l'interpréter. Dis-moi.
J'ai rebranché mes 3 neurones. C'est Mark Twain.
Ah, Mark Twain. Ouais, mais après, tu sais que Mark Twain, justement, c'est un truc, on lui attribue plein de citations. C'est un peu le, c'est un peu le fourre-tout des citations, tu vois. Quand tu sais pas, tu dis que c'est Mark Twain et c'est bon, tu vois.
Aristote, quoi.
voilà. Mark Twain ou Aristote, c'est les deux à qui on attribue l'entièreté du vocabulaire humain. Je sais pas pourquoi, mais c'est tombé sur eux.
Si tu donnes toutes mes astuces, comment je vais faire? Putain, après deux heures,
Non, c'est bien, t'as mentionné des petites perles, ce sera dans les notes pour les gens. On va conclure avec la dernière question qui est si tu pouvais décrire ta routine matinale parfaite. Donc dans l'idéal de toutes les situations possibles, ça veut pas dire que tu l'as fait tous les jours, mais vraiment l'idéal, quelle est ta routine matinale parfaite?
Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que moi j'avais bossé sur l'hypnose justement un petit peu, cette routine. Enfin, en tout cas, cette réflexion. Moi, la routine, je sais que je suis quelqu'un du matin, donc c'est lever tôt, aux premières aurores du soleil, idéalement sans que le réveil ait le temps de sonner. Ou tu te réveilles avec une personne à qui tu tiens, tu te lèves, tu vas faire ta petite mobilité, parce que oui, depuis plusieurs mois maintenant, grâce à toi, je fais ma petite mobilité.
Aye.
Avant, ça pouvait être des étirements. Toujours terminé idéalement par une petite séance de méditation, pas forcément très longue, 10-15 minutes, ça peut suffire. Enchaîné avec un petit thé ou un petit café sous le soleil avec les oiseaux qui chantent. C'est à peu près ce que j'ai fait ce matin juste avant qu'on commence ce meeting. Pour ensuite après voilà prendre une bonne petite douche froide, se sentir vraiment bien dans ses baskets et aller faire le boulot de tes rêves. T'as juste pas l'impression d'aller bosser quoi. Et où tu te dis en fait rien que sur ma matinée. J'ai déjà fait genre un tiers des choses que je voulais faire aujourd'hui. J'enchaîne avec un taf qui me plaît et je sais que la soirée sera encore meilleure. Et
Amen.
Ça, je trouve que ça serait une belle routine de matin.
Amen. Magnifique. Ben écoute, de bien belles paroles pour finir. Je pense que les gens vont bien apprécier tous les outils qu'on a partagés. J'espère qu'ils vont pouvoir trouver des petites perles et qu'ils vont pouvoir implémenter et adapter à leur vie. En tout cas, voilà, sachez que on vous partage tout ça sous le soleil tous les deux, en nature, avec la joie dans le cœur, le sourire, à vivre, je pense, tous les deux une vie qu'on a choisie. Je pense que c'est ça aussi le luxe et c'est ça le privilège. Et voilà, moi j'invite personnellement tout le monde à essayer au mieux de designer le style de vie qui leur correspond. Tu vois, chacun les choses qu'il apprécie. Mais je pense qu'on a tous un peu ce pouvoir-là d'être capable d'organiser la journée comme on aimerait l'organiser. Mais c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup sur cette idée de routine. Ça veut pas dire routine, métro, boulot, dodo. Non, c'est routine dans le sens, j'ai réussi à designer ma vie, tu vois, à prendre des blocs, à les mettre ici, par-ci et là, que ça soit l'entraînement, le temps avec la famille, le repas. Et après, simplement, à essayer de gérer ces blocs au mieux pour que nous, on se sente bien Et tout ça, c'est très subjectif, c'est très personnel. Nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est pas passer pour des gourous et des je sais tout et être moralisateur, pas du tout. C'est simplement essayer de partager. Ouais, c'est simplement essayer de partager des expériences, peut-être des modes de pensée différents, peut-être des outils. Et voilà, inviter les gens à en faire de même, non pas nécessairement essayer ces outils-là, mais simplement avoir une petite pensée critique, à essayer de remettre en question certaines choses, à essayer de changer, de se transformer. Simplement parce que c'est un peu l'animal qu'on est, constamment à essayer de s'adapter, à essayer d'évoluer. Et donc voilà. Est-ce que tu as une petite conclusion pour
moi? J'aurais presque envie de dire qu'en fait, être conscient que la vie est assez longue et que tout est possible, quoi. Et que si jamais on ferme la porte quelque part, et bah, faut passer par la fenêtre.
Amen. Ben écoute, merci mon JB pour cette belle conversation cosmique.
Merci à toi, c'était un vrai plaisir.
Ouh oui les movers, une bien belle conclusion, une pétillante conclusion avec humour, amour, bienveillance, générosité. Donc voilà, c'était une superbe conversation. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à aborder tous ces sujets-là, à découvrir aussi différentes facettes de JB que moi je ne connaissais pas personnellement. Et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'en ai eu à enregistrer ce podcast. Encore une fois, on a eu quelques petits soucis d'enregistrement de temps en temps, hein, évidemment, quand on fait un appel avec le Wi-Fi de Bali et le Wi-Fi de la Réunion, il se peut qu'on se perde de temps en temps, mais j'espère que voilà, la qualité aura été au rendez-vous. Donc comme d'habitude, vous allez avoir le récapitulatif de toutes les ressources, tous les liens, tous les différents livres, tous les différents concepts, toutes les différentes approches dont on parle dans cet épisode, dans la description de ce podcast, un lien sur mon site internet dans lequel vous allez aussi avoir accès à tous les anciens épisodes et essayer de retrouver voilà les différents livres, les différentes choses qu'on mentionne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et vous allez aussi également avoir le moyen de connecter ou de contacter JB si voilà les différentes choses dont on a parlé vous intéressent. N'hésitez surtout pas. En attendant, merci encore pour votre soutien, pour l'intérêt que vous portez à ce que je partage et pour l'intérêt aussi que vous portez au mouvement, à la spiritualité, au développement, au voyage, au nomadisme, bref, à tout ce qu'on peut essayer de faire pour jouer un peu plus et profiter de cette expérience de vie merveilleuse qui est la vie humaine sur Terre. Voilà, il faut que je m'arrête là avec tous ces discours de hippie ou là, je vais trop loin. En tout cas, voilà, gratitude, abondance et bienveillance les movers. Merci encore infiniment pour votre soutien. Je vous retrouve sur YouTube, sur mon site et dans le groupe les movers. Si vous voulez partager encore un peu plus de choses, avoir des retours d'expérience, des exercices, des tutoriels, pas mal de contenus qui vont pouvoir vous aider. N'hésitez pas. Et encore une fois, avant de quitter, comme à chaque fois, je vous invite à commencer votre aventure vers le développement d'une plus grande autonomie physique avec ma petite formation à la mobilité complètement gratuite dans laquelle vous allez avoir 21 exercices, à peu près 3-4 exercices par articulation qui vont vous permettre de déverrouiller votre corps et d'avoir une routine entre 10 et 15 minutes quotidiennement avec des mouvements extrêmement simples qui vont vous permettre de délier, de déverrouiller les articulations, de gagner en souplesse, de gagner en contrôle corporel, en conscience corporelle et qui peut faire aussi office de petite méditation par le mouvement, un petit moment dans votre journée, dans lequel vous pouvez prendre soin de vous et réellement vous sentir plus libre, moins raide, moins tendu, moins bloqué, moins emprisonné dans votre corps. Donc n'hésitez pas, le lien sera également dans la description de ce podcast et toujours accessible sur mon site, ma routine mobilité gratuite. Donc voilà, pour conclure, un grand merci les movers, merci infiniment pour votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Movers. Ciao, ciao. Feel love.